Les gens n'ont pas envie de faire les urgences 24 heures. Je suis désolé, s'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas prêts à faire une médecine préventive. Qu'est-ce que vous mangez? Ah, ben moi, je mange beaucoup de protéines. Là, là, ben vous êtes en train de fatiguer vos reins. Alors, tout ça, mais c'est de la foutaise. Je reste en poli. C'est comme de dire aux gens, arrêtez de respirer, comme ça, vous gardez un peu de la fonction pulmonaire pour quand vous serez plus âgé. C'est que ça là, dans tout ce qui est végétal. Donc, on ne va pas tout interdire. Moi, oui, je dis aux gens, maintenant, je dis non, arrêtez les épinards. Et oui, c'est 100 fois. Pour boucler la boucle, je dirais que finalement, ce qui est le plus dangereux pour la fonction rénale, c'est...
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler d'un organe qui contrôle une grande partie de ce qui se passe dans notre corps et pourtant souvent négligé. Il filtre le sang, élimine les déchets, régule votre tension artérielle, joue un rôle dans la vitamine D, même peut-être sur l'OPO que les sportifs d'endurance doivent connaître. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du rein. Malheureusement, on attend souvent qu'un problème apparaisse pour s'y intéresser. Dans cet épisode, on a la chance et l'honneur de recevoir le docteur Mouton, que l'on a déjà reçu et qu'on va laisser se présenter par la suite, et toujours accompagné de la team 1000% au complet. Comment ça va les gars?
Ça va super, j'ai traversé tout Paris pour écouter Georges Mouton, donc on a les meilleurs experts sur 1000%, donc mettez les 5 étoiles, les pouces, les likes, allez-y. voilà, je fais un peu de pub d'entrée.
Bonjour à tous, bon, ravi de recevoir Georges pour peut-être la 3e ou 4e fois maintenant, hein. Donc c'est un habitué.
Ça va Georges ?
On ne les compte plus.
Comment ça va Georges ?
Il manque quelqu'un dans la présentation.
Oui, on va vous laisser le présenter.
Voilà.
Oh là là, c'est la sieste de Goliath.
Il y a intérêt parce qu'il est un peu pleurnichard aujourd'hui. Il a fait beaucoup de promenades ce week-end. Alors, il a les yeux un peu irrités. Et bon, et ça, on paye un peu la note pour le moment. Alors, espérons qu'il va se tenir tranquille parce que sinon, ça va un peu perturber l'enregistrement. Profitons de ce qui sommeille d'un œil pour le moment pour démarrer, les gars.
Bien sûr. Est-ce que vous voulez vous présenter brièvement, peut-être pour les auditeurs qui ne vous ont pas...
Non.
C'est pas la peine,
non,
hein, on passe à autre chose.
Tout le monde le connaît maintenant.
Non, c'est pas là le problème, mais j'ai horreur de ça. Mais vas-y, Alexandre, toi qui as
bien pendu. On a déjà fait 3 épisodes avec le docteur Mouton. On vous mettra tout en description et là, il se présente justement peut-être dans le tout premier. Donc, allez regarder tout ça et vous apprendrez. Mais je pense que tout le monde vous connaît, docteur, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on voulait parler donc du rein avec les garçons. C'est vrai que c'est un organe qui est très peu connu.
Je t'arrête. Ça commence mal, je voudrais quand même que tout le monde comprenne dès à présent qu'il y en a deux des reins. On a deux reins.
Je pense que ça, on le sait quand même.
Le rein, le foie, le cerveau, le rein. On a deux reins.
Donc je dis les reins alors.
D'accord.
Et est-ce qu'on a deux chances ?
Il n'est pas indispensable. Je viens d'avoir c'est déjà très intéressant. Je viens d'avoir 2 cas cliniques qui se ressemblent. C'est plutôt le père de quelqu'un qui est intervenu, donc quelqu'un de plus âgé, donc dans une bonne 60aine, et qui pour d'autres problèmes de santé, d'ailleurs assez sérieux, a subi des examens d'imagerie de l'abdomen, et alors que le monsieur a 60 et des ans, eh bien il n'a qu'un rein fonctionnel, l'autre est tout à fait atrophié, ne fonctionne absolument pas. Donc on a deux reins, mais il y a une réserve fonctionnelle, un peu comme quand, pour des raisons diverses et variées, parfois graves, on perd un poumon, mais l'autre permet de fonctionner. Mais les poumons, malgré tout, là, on le sent. Les reins, il y a une telle réserve fonctionnelle que, voilà, on peut passer toute sa vie et ne pas s'apercevoir qu'il y a un qui n'est pas actif. Et je vous expliquerai, si vous me laissez un peu parler, parce que bon, parfois, je n'y arrive pas avec vous, c'est 3 contre 1, de savoir comment on évalue ça finement et pas à la grosse louche ou à la... Bon, bref, soyons polis. Comment on le fait en médecine conventionnelle? Je déteste la manière de tester la fonction rénale en médecine conventionnelle. Si on commençait par là, non?
Ouais, pourquoi?
Vous voulez qu'on commence directement par comment le surveiller?
Oui, des choses concrètes.
Parce que moi, ce que j'ai peur, Georges, c'est que les auditeurs qui nous écoutent, ils nous disent « Oui, ben, ils me parlent du rein, moi, j'ai aucun problème de rein. Pourquoi je devrais me soucier du rein, justement ?» C'est ça aussi. Est-ce que d'entrée, on pourrait peut-être donner quand même le rôle central du rein sur l'organisme? Parce que les gens, ils vont se dire « Oui, moi, j'ai aucun problème. Ça ne m'intéresse pas, ce podcast. »
Après, Alexandre,
comment on pourrait faire pour les intéresser ?
Il a dit « Je parle et vous écoutez aujourd'hui. »
C'est vrai. Bon, tu vois. Dans ce cas-là, on l'écoute.
Non, mais allez, bon, le rein... un mot savant pour démarrer en réponse à ce que tu me demandes, c'est le rein est un émonctoire. Donc, c'est quelque chose qui permet d'éliminer les déchets. On parle beaucoup de ça en naturopathie, les émonctoires. Quels sont les deux autres émonctoires, là? Enfin, il y en a peut-être plus que deux.
Le foie.
Deux qui viennent aller, le foie, bien entendu.
La c'est peau. Aussi
un la peau.
Oui, par la sueur, oui, les glandes sudoripares, voilà, ça c'est trois.
Les poumons?
Oui, quelque part, oui, mais enfin, peut-être moins sous forme de déchets, bien que le CO2, bon, on peut dire que c'est un déchet, oui.
Et le côlon?
Oui, mais je sais pas, oui.
C'est toutes les sorties, en fait. C'est toutes les sorties.
Ou... C'est un émonctoire, le côlon, oui, sans doute, hein. Mais enfin, là, c'est plus intuitif parce que c'est une ligne droite, quoi, enfin, avec des virages. Mais donc, le rein, c'est évidemment une façon de détoxifier et c'est connecté au foie parce qu'en réalité, dans le foie, il y a deux phases de détoxification. On peut même en mettre une troisième, mais bon, ça devient un peu trop alambiqué. Phase 1, phase 2 de la détoxification hépatique. C'est très basique ce que je vais dire là, mais c'est super fondamental. La phase 1 prépare les toxines. Alors, c'est quoi les toxines? C'est les polluants. C'est les métaux lourds, c'est les médicaments, c'est le paracétamol, par exemple, hein, qui est compliqué à détoxifier. C'est aussi nos hormones et tout un tas de molécules qui ont besoin d'être détoxifiées, y compris des molécules naturelles endogènes. Et le foie, par ces deux phases, a d'abord un travail de préparation. Ces toxines sont généralement liposolubles. C'est des choses, des molécules avec beaucoup de carbone et d'hydrogène. Et pourquoi est-ce que les médicaments sont typiquement liposolubles? J'ai dit liposolubles, oui, hein, pas hydrosolubles. Donc liposolubles, pas hydrosolubles, hein, c'est l'opposé. Liposolubles, lipidiques, de nature lipidique et hydrosolubles. Bon, là, c'est facile à détoxifier. Qu'est-ce qui va détoxifier les toxines hydrosolubles? Les reins. Voilà, ça c'est évident. Mais la plupart de ces produits chimiques qu'on absorbe, que ce soit volontairement, on va prendre l'exemple du paracétamol par exemple, c'est le plus choquant. Et de manière générale, les médicaments, quels qu'ils soient, sont souvent conçus pour être liposolubles, pour avoir une durée d'action quand même plus longue. C'est-à-dire qu'on va prendre le médicament une fois par jour, tous les matins, à la rigueur, deux fois. Les antibiotiques, on va peut-être même parfois les prendre trois fois toutes les 8 heures. Certains, on les prend une fois par jour avec l'évolution des technologies. Mais si c'était hydrosoluble, il faudrait les prendre beaucoup plus régulièrement parce que ça s'évacue tout de suite. L'hyposoluble, ça persiste beaucoup plus longtemps dans le système. Et donc, il faut éliminer ça à un moment donné. Il faut détoxifier. Et le principe de la détoxification d'une molécule liposoluble, et donc tous les polluants sont, enfin, avec des exceptions, mais l'immense majorité des polluants, quels que soient ceux auxquels on pense, sont de cette nature, donc liposolubles. Il faut y accrocher un véhicule de détoxification qui est une molécule hydrosoluble. pour rendre une molécule liposoluble plus hydrosoluble. Il n'y a pas possibilité de démonter toute cette molécule, ça demanderait énormément de réactions et donc d'énergie pour transformer cette molécule. Ce n'est pas ce que l'organisme fait. La phase 1 de la détoxification hépatique, il insère une petite faille dans la carapace liposoluble, par exemple une molécule d'oxygène, et donc une oxydation ou une hydroxylation, parce que c'est l'oxygène est beaucoup plus réactif que le carbone et l'hydrogène. Et donc sur ce O, pas de l'eau, hein, pas EAU, O de l'oxygène, on peut aller accrocher une molécule dans la phase 2 qui va rendre l'ensemble suffisamment hydrosoluble pour être éliminé. Soit dans la bile, évidemment, on peut l'éliminer dans la bile, quand on parlait du foie comme émonctoire, mais c'est vis-à-vis de la bile. Mais puisqu'on peut un peu revenir les gens. Ah, mais on avait compris que c'était sur les reins, les gars, pas sur le foie. OK, mais on y vient. Quand c'est détoxifié phase 1 puis phase 2, eh bien, les produits de la phase 2 sont très souvent éliminés par les reins parce qu'ils sont suffisamment hydrosolubles. Voilà, c'est tout le principe. Et les reins, donc, comme vous le savez, aboutissent à de l'urine, donc ça doit être hydrosoluble. Par contre, la bile aboutit dans les selles, et là, on n'a pas les mêmes besoins d'hydrosolubilité, donc il y a des trucs plus lipidiques qui peuvent passer par là. C'est logique quand on y pense.
Une des causes de tout ça, c'est que notre système d'élimination est lié à l'eau, et donc quand on a des toxines, des polluants qui sont gras, il y a vraiment ce besoin du corps de transformer quelque chose de gras en hydrosoluble pour après être évacué. Et vraiment, ce système d'élimination est lié à queue et liquidien.
Et oui, c'est un obstacle évident que le partenariat foie-rein remplit parfaitement quand ça fonctionne. Et d'ailleurs, beaucoup de choses qu'on va développer maintenant sur la fonction rénale et pourquoi elle s'abîme et comment faire pour qu'elle ne se détériore pas. Parce que le problème, c'est que, pour rebondir sur ce qu'Alexandre disait au début, les gens disent « oh, ben moi, mes reins, ça va bien, etc. » Bon, ben, d'abord, on mesure pas correctement, on mesure pas finement, hein, ce qui se passe au niveau rénal. Ça ne commence à apparaître que quand c'est déjà fort tard, et très tard pour inverser la donne. Parce que nous, dans notre approche fonctionnelle, mais on veut prévenir et pas constater les dégâts a posteriori. Hein? C'est plus facile de prévenir que guérir. Vous avez déjà entendu ce maxime-là, oui. Pratiquez ça en France aussi, quand même, malgré tout.
Oui, on essaye.
Bon, donc, rapprochons-nous donc du problème rénal. J'avais dit que je donnerais quand même l'exemple du paracétamol qui est frappant parce que c'est très toxique, le paracétamol, pour le foie. Et on ne parlera plus de foie après, je promets. Mais la phase 1 de la détoxification du paracétamol produit une molécule extraordinairement toxique. Goliath. Une molécule très, très néfaste. Je crois qu'il a soif. Heureusement, j'ai un peu d'aide pour le moment. Peut-être pas jusqu'au bout. Et donc, ça détruit le foie très, très rapidement si la phase 2 ne vient pas accrocher cette molécule extraordinairement toxique. Et l'accroche se fait au glutathion, qui est quand même un des très importants antioxydants et détoxifiants par une enzyme qu'on appelle la glutathion S-transférase, qui doit donc mettre du glutathion sur le produit de détoxification phase 1 du paracétamol. Je crois que c'est son acronyme, c'est NPQI. Ou NAQI, je ne sais même plus, le nom complet est infernal. Peu importe, il y a longtemps que j'ai pu traiter de ce sujet-là. Et si malheureusement cette phase 2 ne fonctionne pas avec le glutathion, il y a des gens qui n'ont pas l'enzyme en question. Bon, je n'ai pas cette enzyme GST M1, il y a deux sous-enzymes, M1 et T1, très important à tester idéalement pour voir venir les problèmes. La dose soi-disant tolérable du paracétamol qui serait de 4 grammes par jour peut déjà être létale pour les gens qui n'ont pas le GST, donc la glutathion S-transférase M1 derrière. Donc tout ça est très intéressant. On avait dit qu'on parlait des reins, sauf si vous avez peut-être changé d'avis, parce qu'on a déjà un peu changé d'avis. Non, on reste sur les reins. Mais la dernière chose que je vais quand même dire avant de ne plus jamais vouloir aborder le foie, c'est que sur les reins, vous allez découvrir que moi, mon axe principal, mais pas le seul, c'est le gut-kidney axis. Il y a une tolérance pour l'anglais sur votre podcast?
Non, on essaye quand même de traduire en français si possible.
Sauf que le gut-kidney axis, c'est ça qui est publié.
D'accord. Mais votre traduction à vous, alors.
L'axe intestin-rein.
Voilà.
Ouh, c'est quand même un peu plus lourd. Okay.
C'est pas grave.
Et il y a le gut-liver axis, comme il y a le gut-brain axis. Hein. Mais toute l'approche, si on voulait refaire un webinaire pour le foie, l'axe intestin-foie, je dirais quasiment la même chose que ce que je souhaite expliquer aujourd'hui pour l'axe intestin-rein. C'est la même logique. Il faut des intestins qui fonctionnent. Il faut un microbiote équilibré. Il faut une muqueuse intestinale qui n'est pas enflammée, qui n'est pas perméable.
Bon, on va regarder ça. Donc là, c'est les signes alors. C'est le début des signes. Ben justement, pour les signes au niveau du rein, donc moi, en introduction, j'avais parlé justement de la pression artérielle. Est-ce qu'aussi une augmentation de la pression artérielle, ça pourrait être un des signes? On a parlé tardif.
En fait, tous les signes sont tardifs.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast.
Il n'y a pas de détection précoce du début d'un affaiblissement de la fonction rénale. Donc, il faut de temps en temps, quand on fait un bilan, bon, évidemment, plus fréquemment quand on est plus âgé, mais bon, quand on est jeune, on le fait une fois et puis c'est bon. Ceci dit, mon patient là de soi, enfin, ce n'est pas mon patient, mais le père de cet internaute, à 60 et des ans, il n'a qu'un rein fonctionnel. S'il avait été testé correctement plus jeune, on aurait tout de suite vu qu'il y avait quand même un manque. Hein. Mais ça passe sous le radar. Ça ne se fait pas. Et c'est un peu notre rôle, non? Tous les quatre, là, cinq avec Goliath, bon, qui va peut-être un peu dormir maintenant et faire pipi. Et donc, ça passe sous le radar. Et notre rôle, c'est de dire aux gens, demandez une fois à votre médecin traitant ou faites-le vous-même parce que c'est vraiment pas coûteux du tout. Donc en France, on a la chance de pouvoir s'auto-tester. Peut-être y penser un peu plus vite s'il y a eu des problèmes d'insuffisance rénale dans la famille. Je dis pas que c'est quelque chose de très héréditaire, mais il y a quand même des pistes possibles et on va les énumérer. De tester la fonction parce que les signes cliniques sont trop tardifs. Évidemment, quand les reins ne fonctionnent plus, la tension artérielle s'élève, on peut avoir de la confusion mentale parce que on est intoxiqué, mais c'est des signes extraordinairement tardifs. On n'est plus dans la médecine fonctionnelle là.
Est-ce que les premiers signes ne seraient pas digestifs ou des signes hépatiques? On a compris que c'était une globalité, que c'est un système qui fonctionnait ensemble. Est-ce que
oui, mais ils ne se traduiront pas au niveau rénal, si ce n'est par les analyses. Moi, ce que je vous propose de faire, et j'essaie depuis le début, je pense que je vais finir par y arriver.
Allez.
Comment est-ce qu'on teste cette fonction rénale?
Allez, testons-la.
Si on ne la teste pas, on va attendre, comme en médecine conventionnelle, des trucs beaucoup trop avancés. Oui, c'est ça le problème de la fonction rénale. Pourquoi est-ce
comment
qu'il y a
on la teste alors
qui parle de la fonction rénale en médecine fonctionnelle? Personne ne s'intéresse à ça. Et donc,
si
personne
nous...
ne va avoir envie de regarder ce podcast puisque tout le monde s'en fout. Mais c'est votre travail d'innover, d'amener des choses nouvelles. Sinon, vous faites
Georges,
quoi?
Vous nous avez dit c'est révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qui est révolutionnaire sur l'évaluation du foie, du rein?
Pierre,
la puce. Mais oui, on parle plus du foie que du rein. Hein. Je comprends plus rien, moi.
Bah écoute, on va parler des reins. C'est une ancienne, une longue histoire. Je vais remonter loin dans le temps. Il était une fois. Ah non, je ne peux pas commencer comme ça parce que on retombe encore sur le même truc. On fait une prise de sang et des analyses d'urine de 24 heures. Je suis désolé, tous ceux qui vous racontent, ça c'est putaclic. On nous ment sur la manière de tester la fonction rénale. Hein, ça c'est putaclic. On nous a menti. Heureusement, ici, notre invité va enfin vous révéler la vérité. Et, c'est de l'humour, hein, ceci en principe. Il faut une récolte d'urine de 24 heures, parce que prétendre qu'on va finement évaluer la fonction rénale, on ne parle pas d'une fonction rénale qui s'éteint, là, on parle d'une fonction rénale qui décline. Donc, il faut une évaluation fine. Prétendre faire ça sur une simple prise de sang, c'est absurde. Parce que le rein, c'est ce qui élimine les toxines qu'on mesure dans le sang et qu'on doit retrouver dans l'urine. Alors, une toxine très intéressante, fondamentale, qui va symboliser cette histoire de rein, constaté qu'on ne parle plus de foie déjà depuis un bout de temps, c'est la créatinine. Alors, je vous entends venir avec vos gros sabots. Ah oui, la créatine. Mais non, ça n'a rien à voir. La créatine et la créatinine, vous oubliez, c'est deux molécules différentes. Donc, je dis bien la créatinine, qui est souvent dosée dans le sang pour, en médecine générale, pour évaluer la fonction rénale. C'est un marqueur de fonction rénale. Mais ce qu'il faut faire en approche fonctionnelle préventive, c'est aussi tester la créatinine dans les urines de 24 heures. Et alors, vous comparez le taux sanguin et le taux sur les urines de 24 heures. Okay, et il y a une formule que tous les labos vous calculent. Moi, je ne la calcule jamais. C'est toujours le laboratoire. C'est automatique. C'est dans leurs ordinateurs. Tous les labos, y compris les labos basiques de médecine, labos de...
additionnels.
Qui font les analyses de base, ils font ça très bien. Il faut évidemment que la récolte d'urine de 24 heures soit correcte. Éventuellement, on pourrait peut-être le rappeler brièvement, si ça vous intéresse. Et on demande la clairance de la créatinine. La clairance. C-L-A-I-R-A-N-C-E. Et en anglais, bon, on voit souvent clearance. Hein, c'est C-L-E-A. Bon, pareil. La clairance de la créatinine. Ça, c'est l'analyse qu'il faut absolument obtenir. Je me dis, ah oui, mais les gens n'ont pas envie de faire les urines de 24 heures. Je suis désolé, s'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas prêts à faire une médecine préventive. S'ils ne sont pas capables de pisser dans un pot pendant 24 heures et d'apporter ça au laboratoire et de donner leur veine et de faire un dosage de la créatinine dans les deux, dans le sang et dans l'urine, pour obtenir la clairance, ben, qu'ils restent dans leur problème et qu'ils attendent que ça aille plus mal avant de se rendre compte qu'ils ont un souci.
Georges, juste la clairance, est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres justement pour nos auditeurs et après derrière enchaîner sur comment bien faire cette analyse au niveau des urines, est-ce qu'il y a des choses justement à mettre en place?
Oui, ça vaut la peine. Alors ce qui est bien, c'est que là, parce qu'il y a beaucoup d'analyses, alors j'en profite parce que je dis ça dans toutes mes vidéos quasiment, je dis, les gens me donnent des chiffres, hein, oh, docteur Mouton, est-ce que vous en pensez, on m'a dosé ceci et cela. 18 et 36,2. Il me donne pas de référence. Alors, c'est ridicule parce que d'un labo à l'autre, c'est pas les mêmes unités, c'est pas les mêmes références, c'est pas interprétable. Bon, il me faut des références. Par contre, ici, pour la clairance de la créatinine, de mémoire, c'est des nanogrammes par millilitre. Bon, j'ai même pas l'unité, à coup sûr. C'est 120.
Okay. Pour être commun, pour être les normes communes, normes labo ou normes type?
C'est tip top. Alors le labo donne des normes qui partent évidemment de nettement plus bas. Il y a quand même un certain déclin avec l'âge. Donc voilà, vous qui êtes jeune, ou en quelque sorte, Vous devriez tous être aux alentours de 110, 120, 130. Et puis, bon, au fur et à mesure des décennies, ça décline. Je suis quand même toujours à 120, malgré ce que certains peuvent imaginer.
Surprenant, non?
Donc, c'est étonnant, oui, oui. D'ailleurs, j'étonne toujours dans ces domaines de santé. Et donc, il peut y avoir une petite diminution avec l'âge, mais on parle vraiment d'âge déjà relativement avancé. Et c'est un peu comme la fonction pulmonaire. Si vous êtes en bonne santé, ben, vous êtes quand même encore capable à 60 ans de faire des trails, des grimpettes dans les montagnes, etc. Vous respirez, vous n'êtes pas atteint. Bon, évidemment, sauf fumeurs ou les mineurs de fond, bon, ou alors ceux qui travaillent dans les poussières, dans la silicose et tout autre problème. Donc, c'est une fonction qui ne se dégrade pas très fort. Et quand on refait un test après 3 ans, 5 ans, on compare. Hein, et si on voit que ça diminue, il y a un problème, les gars. Il n'y a personne qui va vous avertir qu'il y a un problème, sauf quand le problème va être flagrant, et alors on retombe sur les trucs classiques qui ne m'intéressent pas dans le propos du jour, parce qu'on n'est pas là pour remplacer l'hôpital. Hein.
Et au niveau de ce test, est-ce qu'il y a des choses...
La charité, vous savez que l'hôpital se moque toujours de la charité, mais nous c'est la charité, c'est le cas de le dire. Vu que je ne suis pas défrayé pour ma prestation du jour.
Mais... Vous allez recevoir un virement après.
Un sacré chèque, Georges.
Je crois que c'est trois fois plus. C'est trois fois plus que le dernier podcast. Je crois que 0 x 3, ça fait toujours 0.
D'accord. Bon, je vois un peu. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce chiffre-là. Et j'ai d'autres choses à dire. Parce que la créatinine prise dans le sang, il y a un algorithme conventionnel avec un acronyme, je crois que c'est GFR en anglais, en français c'est un autre acronyme, DFG, c'est ça, hein, DFG je crois. Oui, le problème c'est que j'ai des acronymes dans les deux langues, j'ai tendance à les mélanger, peu importe, vous avez ça dans tous vos résultats. Moi, j'ai horreur de ce truc-là parce que c'est une estimation de la fonction rénale basée sur la prise de sang. Alors, dans la prise de sang, il n'y a pas que la créatinine. La créatine. Il n'y a pas que la créatinine. Il y a l'urée, très intéressant aussi, et l'acide urique. En réalité, c'est les trois marqueurs. Moi, je demande toujours ces trois marqueurs-là. Donc, créatinine, urée, acide urique. Et quand, évidemment, les trois sont à la hausse, bon là, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller prouver quelque chose par la clairance de la créatinine, il y a anguille sous roche. Et il faut évidemment faire la clairance de la créatinine pour savoir à quel point on en est dans une certaine baisse de la fonction rénale. Mais ce qu'il est très important de savoir, surtout avec votre public, c'est que si vous avez des gens physiquement très actifs, surtout croissance musculaire, bodybuilding, pas que, sport de force, diète riche en protéines pour justement correspondre à ce qu'on veut faire sur le plan sportif, on peut avoir des créatinines hautes et même au-dessus des normes. Ce que la plupart des médecins conventionnels vont commencer à interpréter, dire vous avez un problème de rein. Mais non, c'est l'excès de protéines. Si chez ces gens-là, vous faites la clairance de la créatinine, elle sera parfaite. Elle sera même souvent excellente, parce que c'est des gens en pleine santé, sportifs, avec un système cardio, pulmonaire, rénal, super performant. Alors que le médecin, qu'est-ce qu'il va dire quand il va avoir une créatinine? Vous allez voir que ça va nous mener à quelque chose de tout à fait choquant. J'ai d'ailleurs jamais expliqué dans aucune de mes vidéos, donc c'est de l'exclusivité que vous avez aujourd'hui, les gars, c'est juste pour vous. Merci. On sent, hein, c'est pas banal. Ces médecins-là vont dire, oulala, vos reins souffrent. Qu'est-ce que vous mangez? Ah, ben moi, je mange beaucoup de protéines parce que moi, je vais 4 fois par semaine, je travaille tous les groupes musculaires. Hein, j'ai une masse musculaire importante. Oulala, mais vous êtes en train de fatiguer vos reins. Et alors, tout ça, mais c'est de la foutaise, mais c'est faux de A à Z. Et pour le démontrer, clairance de la créatinine. Ah ben oui. Et donc, si on mange beaucoup de protéines, la créatinine est un déchet donc du métabolisme azoté, donc les protéines, mais il y a de l'azote, contrairement aux lipides et aux glucides, il n'y a pas d'azote, ce qui fait la différence dans les trois macronutriments, protéines, azote, lipides, glucides, protides si on veut faire les mêmes termes, l'azote se retrouve que dans les protéines. Donc on va voir une créatinine élevée. Le médecin, avec son chiffre bidon qui n'est basé que sur le sang, va dire, vos reins souffrent, c'est parce que vous mangez trop de protéines. Alors, on pourrait imaginer un monde où effectivement, il y a une exagération, il y a une limite à tout. On entend souvent dire, qu'est-ce que vous dites, vous, en grammes par kilo pour les protéines?
1,5 g, 1,8 g.
Max 2, je pense.
C'est déjà beaucoup.
Oui.
Qu'est-ce qu'il dit, Georges?
C'est trop?
Bon, je dis souvent 1,6 g. Je n'ai pas envie de dire comme vous.
Ah hein. Oh là là. C'est la Suisse. Hein.
Tu dirais pas 1 g?
Et le Luxembourg.
Enfin, ça dépend un peu aussi ce qu'on veut. Alors, c'est vrai que quand on est plus âgé, il faut un peu augmenter pour essayer de lutter contre la sarcopénie. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et donc, évidemment, il y a peut-être moyen en mangeant, je sais pas moi, 3 grammes de protéines par jour de commencer à mettre un peu le bazar. Hein. Et j'en sais même trop rien. Et c'est vraiment le moment de dénoncer, c'est très important ce que je veux dire ici, il faut dénoncer un tas de crétineries qui sont absolument systématique sur, pas seulement sur les réseaux sociaux, aussi chez les médecins généralistes qui connaissent pas leur sujet. Il y a énormément, enfin, ou chez des non-médecins, des professionnels de la santé non-médecins, énormément de gens, professionnels ou pas, disent, oulala, si on mange trop de protéines, on fatigue les reins. J'ai entendu ça. Est-ce que vous dites ça vous-même, éventuellement? Peut-être pas, parce que vous êtes plus dans le truc, mais vous avez entendu ça, non?
Oui. Après, nous, on dit que les gens ne mangent pas assez de protéines, justement, par rapport à déjà 1,5, 1,6. Je pense que la majorité des gens ne les consomment pas déjà. Oui. Donc, on n'a pas eu tout ce discours-là.
OK. Mais vous entendez ça tout le temps,
bien
non?
Sûr. Ah oui, bien sûr.
Les protéines fatiguent les reins. Alors, évidemment, celui qui, parce qu'il mange beaucoup de protéines, ben là, il faut quand même déjà y aller. À une créatinine un peu haute, le médecin va dire, voyez, tu avais raison, je t'avais bien dit, hein? Avec ton truc au gym, là, que tu écoutes les Pierre, Vincent et Alex, là, le PAF, hein, c'est un PAF, mais avec V à la fin, encore pire PAMS. Que le PAF PAMS. Normal. PAMS, oui, c'est peut-être pour ça, mais Vincent, c'est... Enfin, bref. Il va dire, la preuve est là, mais abruti, fais la clairance de la créatinine, tu vas voir qu'elle est merveilleuse, et on rattrape toutes ces imbécilités. Et dire que manger des protéines fatigue, parce que les gens vont plus loin que ça. Ils ne disent pas que manger beaucoup de protéines fatigue les reins. Ils disent qu'il vaut mieux manger vegan pour ne pas fatiguer les reins. À un moment donné, ils inversent le truc dans l'autre sens pour épargner les reins. Et c'est comme de dire aux gens, arrêtez de respirer, comme ça vous gardez un peu de la fonction pulmonaire pour quand vous serez plus âgé. C'est aussi absurde. Ça ne fatigue pas les reins de faire le travail pour lequel ils sont conçus.
Donc on a vu peut-être les limites des protéines, on se situe vraiment sur des tranches très hautes qui ne sont absolument pas sur les recommandations qu'on a. Si on reste sur 1,5 g, on est sur les limites, on est pleinement en sécurité, on est même très vertueux pour tout le système. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez dit que la créatine et la créatinine, c'était deux choses complètement différentes. Pourtant, quand il y a une consommation de créatine, on a une augmentation de cette créatinine, non?
Non.
Merci.
Et c'est pas le déchet, c'est pas parce que c'est trois marqueurs quand même, l'urée, l'acide urique et la créatinine, qui sont liés au métabolisme des protéines, non?
Oui, mais on va avoir la même clairance de la créatinine sous créatine ou pas.
Mais pourquoi c'est lié au métabolisme des protéines?
On voit comment on s'exprime, mais la créatine n'a aucun impact prise à des doses raisonnables. Moi, la dose raisonnable de créatine, je suis désolé, mais j'ai commencé à prescrire ou à donner à mes propres athlètes à l'époque qui étaient des sprinters.
Qui étaient précurseurs, Georges.
En 1994, hein, c'est Linford Christie qui, dont on a su, donc, sprinter anglais, qui était pris par la patrouille, mais pour d'autres choses, par après, mais qui a le premier laissé savoir, où on a appris par indiscrétion, que il prenait la créatine. Et effectivement, c'était assez miraculeux sur des sprinters. Moi, tous mes sprinters, à peu près systématiquement, ont gagné 2 à 3 dixièmes de seconde sur 100 mètres. Et bon, pour aller les gagner par l'entraînement, ça, il faut un an ou deux. Et là, c'était assez flagrant parce que la créatine est quand même évidemment anabolisante. Elle était un anabolisme doux. Hein. Elle était interdite en France au début, mais tous les rugbymen l'utilisaient. C'était une vaste farce. Et puis, de toute façon, la créatine, mais c'est dans le muscle, c'est dans la viande. Et bien avant que la créatine ne soit en vente en sous forme de poudre, eh bien tous les bodybuilders du monde s'enfilaient des steaks d'un kilo à chaque repas, parce que dans un kilo, ben, il y a les 6 grammes de créatine qui sont la dose efficace à prendre juste après l'entraînement, tout de suite après l'entraînement, hein, c'est beaucoup mieux. Et donc, interdire une molécule qui est dans la viande, ça paraissait un peu abscon. Il y a d'ailleurs qu'en France qu'on l'a interdite parce qu'ailleurs, c'était impossible. Et donc, j'ai commencé à utiliser ça en 1994. Et donc, je suis certain de l'innocuité absolument radicale et absolue de la créatine à ces dosages-là. Bon, maintenant, il y a évidemment, comme c'est la période est à l'exagération de tout, on veut donner 20 grammes tous les jours. Moi, je n'ai jamais exploré ça. Bon, je ne vois pas pourquoi plus, c'est mieux. Alors, on dit que c'est pour le cerveau, mais bon, alors les seuls éléments scientifiques publiés qu'on a pour, avec la créatine à très forte dose du style 20 grammes, voire plus, pour aider le cerveau, ben, c'est pour rester éveillé quand on n'a pas dormi. Ben, écoutez, bon, ben, je ne sais pas si on est dans la connerie ou dans la médecine fonctionnelle. Ben, si tu n'as pas dormi, pourquoi est-ce que tu vas aller prendre 20 grammes de créatine? Dors et puis tiens-toi à tes 5 ou 6 grammes. On va dire, moi, j'aime bien 6 grammes plutôt que 5 parce que j'ai toujours travaillé avec 6 grammes. Mais combien de fois est-ce qu'on n'a pas dit au début, c'était un vrai carnage, ah mais la créatine c'est mauvais pour les reins. C'est faux, c'est une invention totale. Il n'y a aucune de ce que la créatine est mauvaise pour les reins. C'est un peu le même principe de dire aux gens, il ne faut pas manger de viande, c'est mauvais pour les reins. C'est la même connerie, la viande c'est la créatine. Comprenez le lien ?
Est-ce que tu peux m'éclairer sur le fait que les marqueurs de métabolisme protéique soient liés à la santé rénale? J'arrive pas à faire le lien.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Alors, je ne sais pas exactement si... Il me vient une idée pour développer un peu ça. Si tu manges, au lieu de manger 1 gramme de protéines par kilo, comme j'en fais, on s'approche de 2, ne nous étonnons pas qu'on trouve plus de créatinine. Parce que c'est le déchet azoté. Mais en général, on trouvera plus de créatinine. Je n'ai pas encore tout dit, j'en garde toujours un peu pour la fin. Au cas où je me ferais virer, comme ça vous n'avez pas tout. Il faut aller jusqu'au bout du podcast. OK? Jusqu'au bout. Je garde le meilleur pour la fin. Et où ce serait alors un peu plus ennuyeux, c'est de voir une augmentation de créatinine, attention à ce qu'on dit, et de l'urée, parce que l'urée, c'est aussi un déchet du métabolisme azoté. Bon, que la créatinine augmente, c'est normal. Il y a deux fois plus d'azote qui arrive avec 2 grammes par kilo qu'avec 1 gramme par kilo. Donc, à un moment donné, ça déborde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça repart dans les reins et c'est là que la clairance de la créatinine reste parfaite. Alors, l'urée est un autre, il y a de l'azote dans l'urée, c'est un autre déchet du métabolisme azoté, donc du métabolisme des protéines. Bon, là, je dois aussi dire quelque chose d'important. Et tout ceci, c'est des scoops. Il n'y a personne qui sait ça. Enfin, personne, peu de gens qui savent.
Ça croustille.
L'urée élevée pourrait, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, être le témoin d'une dysbiose intestinale. C'est un assez bon marqueur de la dysbiose intestinale. Je ne vais pas dire nécessairement élevé au-dessus des normes, mais qui, voilà, qui est quand même proche du maximum. Et c'est aussi un très bon marqueur du surentraînement.
C'est quoi une norme, un chiffre? Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre, justement, un repère, enfin, le repère du docteur Mouton?
Je ne retiens jamais les unités, mais c'est vrai que pour l'urée, je crois que c'est aussi plutôt universel. On va dire 50, okay, ou 48, ou par là. Si on est un peu au-dessus, ou juste en dessous, alors que d'habitude, on n'est pas à ces niveaux-là, on regarde une vieille prise de sang d'il y a un an ou deux, on est passé de 35 à 48 ou à 51 sur entraînement. Donc, vous pourriez très bien avoir un vrai sportif, ceux qui ont confiance en vous, c'est ceux-là qui vous suivent, les vrais, les durs, ceux qui travaillent vraiment le truc à fond parce qu'ils sont
ceux super qui sont à 1000%.
Motivés, beaucoup plus de protéines, ok, créatinine un peu suspecte, mais trop de gym, trop de fonte, pas de base aérobie, c'est une forme de surentraînement. Une urée haute, c'est aussi un marqueur de ce que j'appelle la dérive lactique du métabolisme, anaerobic shift, désolé pour l'anglais, trop d'anaérobie, pas assez d'aérobie, hein, typique de ceux qui, voilà, ils vont au gym, ils battent leur record de force, etc., ils ont aucune activité douce, hein, à basse fréquence cardiaque. En zone 1, 2, ils sont tout le temps dans les zones 3, 4, puisqu'on parle beaucoup de zones maintenant.
Ça pourrait être aussi un sportif d'endurance qui s'entraîne mal et qui ne fait jamais de zone 2. Ça pourrait être aussi ce cas-là.
Tout à fait. Mais dans le cas caricatural où on va partir sur des thèses complètement fausses et accuser les reins. Et en fait, les reins vont parfaitement bien. Et comment est-ce qu'on va prouver que les reins vont parfaitement bien, malgré une créatinine un peu haute, malgré une urée un peu haute? Comment est-ce qu'on va démontrer au médecin qui s'est mis le doigt dans l'œil en accusant le régime riche en protéines et en expliquant que c'est lui qui est en train d'abîmer les reins? Grâce.
C'est la clairance.
À la clairance de la créatinine qui va être parfaite.
Et le lipide, pardon.
Tu dis que ça peut être dû à une dysbiose, donc peut-être une dysbiose de putréfaction, quelqu'un qui mange plus trop de protéines, qui est dans ce type-là.
Alors, bon, ça, c'est pas publié, ça, c'est vraiment mon expérience clinique, mais c'est un très bon marqueur de dérive vers la dysbiose qui n'est pas suffisant en lui seul. Hein. Il faut évidemment aller plus loin, mais c'est un marqueur assez intéressant de dérive vers la dysbiose. S'il n'y a pas de surentraînement, il y a des gens qui ne s'entraînent pas ou peu, et chez eux, on n'a pas cette explication de surentraînement. Okay. Alors, on n'a pas fini, parce qu'il y a l'acide urique aussi. C'est le troisième déchet azoté, acide urique, urée. Bon, dans tout ça, vous pouvez regarder les molécules. Je suis obligé à afficher les molécules en lien, en post-description de la vidéo. On constate toutes les molécules. Enfin, il y a le N dans toutes, l'azote. Okay. Et donc, dans l'acide urique, il y a aussi cette affaire-là. Alors, bon, on ne va pas trop parler de l'acide urique parce que ça commence un peu à s'écarter, mais dans l'insuffisance rénale débutante et évidemment a fortiori avérée, les trois molécules augmentent. Mais là, de concert, et ça peut être de plus en plus flagrant. Bon, là, les choses commencent à aller mal, et nous, ce qu'on veut faire, c'est anticiper sur tout ça. L'acide urique, il est aussi de la partie, parce que, bien entendu, s'il y a une grosse consommation de protéines, et pas que, malheureusement, l'acide urique, c'est assez complexe, parce que ça augmente quand on mange énormément de viande et de gibier, d'abats, etc. Bon, l'excès d'acide urique, c'est la goutte, hein, ça donne la fameuse crise de goutte. Henri VIII, roi d'Angleterre, connu pour ses 6 femmes dont il a trucidé une bonne partie, avait un niveau de goutte phénoménal, mais à l'époque, les repas royaux, c'était 18 services avec des trucs animaux, hein, boum, 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 boum. Bon, plus évidemment le vin et les liqueurs et tout le truc. Donc là, effectivement, goutte. Mais un excès d'acidurique, de nos jours, puisqu'on ne fait plus ça, c'est surtout le fructose et donc surtout les sodas bourrés de ce faux ce faux sucre, hein, bourré de soit de saccharose qui n'est jamais qu'un mélange de glucose et de fructose, soit de fructose pure et dure, extrait du maïs, etc. Et donc, vous avez beaucoup d'excès d'acide urique sur des foies d'ailleurs qui sont en train de devenir foie gras, hein, stéatose hépatique, etc. Et là, c'est pas le métabolisme azoté. Donc, acide urique, on pourrait faire un webinaire sur l'acide urique. Mais je pense que c'est un peu s'égarer. Ce que je veux absolument dire maintenant, et puis on peut avancer, c'est qu'un acide urique sur urine de 24 heures est un très bon marqueur du surentraînement. Du surentraînement anaérobie, du manque d'équilibre entre les prestations anaérobie, que ce soit évidemment de poids et halter, ou des exercices en continu, mais à trop haute fréquence cardiaque, à trop haute intensité, sans compensation aérobie.
Pierre, je ne sais pas si tu avais une question, mais non, c'est bon. Je voulais juste rebondir par rapport aux protéines. On a parlé justement de ces 1,5. Et au contraire, est-ce que si on est en dessous, de façon un petit peu chronique, est-ce qu'on a un risque d'abîmer ses reins sur la longue, d'avoir une sous-consommation de protéines?
Bon, sous-consommation de protéines, pour avoir une sous-consommation, il faut quand même déjà taper fort bas.
C'est-à-dire 0,8, 0,5 ? Est-ce que 0,5, c'est une sous-consommation ? 0,8, 0,5, est-ce que c'est une sous-consommation ?
0,8, je crois que c'est limite, mais 0,5, évidemment, c'est oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est demander au laboratoire une électrophorèse des protéines sériques et on va voir qu'il y a un manque d'albumine. Un manque de préalbumine, on va voir une dénutrition. Et là, dans des trucs, alors c'est des diètes véganes très très mal foutues, ou c'est des gens âgés ou des gens qui ne savent plus marcher, qui n'ont pas les sous pour acheter des protéines, et tout un tas de trucs. Bon, c'est un peu du côté bas, c'est quand même extrême. Okay. C'est pas spécifiquement lié au rein, c'est lié à tout. Il y a rien qui va fonctionner sans protéines. Ton immunité, c'est la fin des haricots.
C'est juste pour préciser, donc au niveau des protéines et au niveau de, parce qu'on n'en a pas parlé, excuse-moi Vincent, mais un point clé qui revient beaucoup au niveau du rein, c'est quand même l'hydratation. Je pense que c'est le premier mot qui revient. Comment faire ou comment se placer par rapport à l'hydratation, même si c'est hyper personnel?
C'est là que justement, on va revenir à quelque chose qu'on avait dit qu'on expliquerait bien, et ça vaut vraiment la peine, c'est cette histoire d'urine de 24 heures. C'est très facile quand on demande, hein, voilà, vous avez des gens qui vous consultent ou que vous entraînez, etc. Vous dites, bon, il me semble qu'il y a des erreurs. Faisons une récolte d'urine de 24 heures. Ben, le volume des urines de 24 heures, c'est déjà vachement intéressant. Bon, moi, en dessous d'un litre 3, je commence un peu à tiquer. Évidemment, il y a des tout petits gabarits, peut-être des femmes plus âgées, on peut encore à la rigueur, mais même pas. Un litre 3, je commence à me plaindre. Un litre, je rouspète. 800 millilitres, j'engueule, j'insulte. Et 600 millilitres, je renvoie les gens, je dis, écoutez, vous reviendrez quand vous boirez, moi je ne m'occupe pas de gens qui se suicident en ne buvant pas assez. Mais non, mais...
Parce qu'en fait, la recommandation, ce n'est pas forcément ce qu'on va ingérer, mais il faut plutôt regarder au contraire la quantité qu'on va...
Ça dépend ce qu'on transpire, ce qui fait 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, c'est le volume des urines de 24 heures. Alors on peut partir sur ces chiffres Moi, le bon volume, c'est 2 litres. Moi, quand je fais mes urines de 24 heures, je suis à 1,8 litre, 2 litres, je suis content de moi. Bien entendu, on peut déjà soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la couleur. Les urines doivent être jaune pâle. Même pas besoin de mesurer le volume. Voilà, tout qui nous écoute, parce que mes urines sont jaune pâle. Parce que si elles sont jaune foncé, bon, il y a un problème. Et si elles sont un peu du côté brun, il y a un gros problème. Alors là, il faut absolument mesurer les, oulala, l'ampleur de la catastrophe. En lien aussi avec l'activité sportive, si on a fait des trucs fatigant, on a transpiré, etc. Et puis il n'y a pas assez d'urine, c'est catastrophique. Moi, je rigole pas du tout ici, je suis sérieux, je me souviens très très bien de la scène. Bon, il y a un bon bout de temps, hein, il y a certainement 30 ans, où j'ai jeté dehors, littéralement, quasiment manu militari, mais bon, j'ai fait dégager de ma pièce. C'est un très bon motocrossman belge. Hein, qui venait pour des conseils de préparation physique, parce que bon, moi, je suis pas technicien du pilotage moto, mais pour sa santé, le gars était ambitieux, etc. Et puis, il débarque dans mon cabinet de consultation, il s'attend à avoir sa prise de sang, etc. Puis il sort son bidon d'urine de 24 heures de son sac à dos, et je vois un truc 600 millilitres tout brun. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, c'était tellement brun, je savais bien qu'il y avait tout. Hein. C'était super concentré. C'est pas qu'il avait oublié de récolter certaines urines. On va rappeler comment bien récolter. Je l'ai jeté dehors. Je lui ai dit, écoute, tu pars. Reviens plus tard. Reprends rendez-vous si tu veux. Moi, je vais pas entrer dans des détails et vérifier qu'il n'y a pas un déficit en fer ou en vitamine B2, etc. pour optimiser ça. Sa condition, sa santé et sa condition et sa performance. Je dis, t'es pas foutu de voir. Ah oui, mais je me suis entraîné, il faisait chaud. Je dis, oui, mais c'est pas mon problème, moi.
Est-ce que même le matin au réveil, c'est aussi important d'avoir des urines légèrement jaunâtres? Est-ce que ça, c'est aussi un repère? Parce que souvent, le matin, ça peut être un moment où justement, il y a peut-être des urines qui sont un peu plus foncées. Est-ce que ça, c'est un repère? Et deuxième question, est-ce qu'aussi le nombre de fois où on va uriner dans la journée, c'est quelque chose qui est important? Est-ce que si, par exemple, on espace trop, c'est inquiétant? Et juste dernière chose, les gens, si vous nous écoutez, ça fait 50 minutes. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Le docteur Mouton viendra répondre si vous posez des questions gentilles. J'en suis persuadé. Et abonnez-vous, on a plus de 160 épisodes, donc plusieurs avec le docteur Mouton, ça sera aussi en description. Pardon, Georges, pour cette petite publicité.
Sinon, tu risquais d'oublier, je comprends. Et donc, y a des gens qui ont une vessie de grande dimension, ou l'inverse. En plus, il peut y avoir tout un tas de causes qui fait qu'on va uriner trop souvent. Par exemple, quand il y a un dépôt de cristaux d'oxalate sur la muqueuse vésicale.
On y vient.
On peut aussi avoir de l'hypothyroïdie qui fait qu'on va uriner plus souvent. Enfin, c'est tout un sujet en soi. Mais c'est pour ça que c'est quand même intéressant, les urines de 24 heures, où la couleur finit par se compenser. Et je ne crois pas que ce soit quand même trop sympa de se lever, d'avoir des urines fort foncées. C'est quand même pas bu assez, parce que ça, c'est la vessie qui garde l'urine qu'on sécrète pendant la nuit, hein. Et, quand on est jeune et qu'on n'a pas de problème et qu'on n'a pas trop d'oxalate et qu'on n'a pas, une trop petite vessie. Bon, il y a des gens qui ont des vessies plus petites de début, comme, tout peut être plus grand ou plus petit, si vous voyez ce que je veux dire, mais, revenons au sujet. Et donc, ça, c'est pas normal de se lever, d'aller uriner, que c'est trop foncé dans la toilette. Non, c'est qu'on n'a pas bu assez la veille. L'urine doit être diluée. Bon, si c'est pas non plus un crime de se lever une fois pendant la nuit pour aller uriner, pour on va pas se déshydrater pour le plaisir de ne jamais aller uriner une fois pendant la nuit. Le sommeil interrompu. Je ne dors plus d'une traite. Oui, mais ça, c'est quand on est bébé. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus choquant de devoir se lever une fois par... Hein, il y a des gens qui se déshydratent en soirée pour ne pas se relever la nuit. Il y a un moment donné où il faut arbitrer. Et c'est toujours la même chose. Urine de 24 heures. minimum 1 litre 3, idéalement un peu plus, ça dépend aussi du gabarit de la personne. Et la couleur de l'urine doit être jaune pâle. Alors attention, il y a une petite astuce. Quand on s'aperçoit qu'il y a un manque de vitamine B2 qui est courant et qui est une vitamine très importante, et là on peut faire un webinaire B2, si vous voulez, pas les B2 de l'autre, là, hein, pas les bombardiers furtifs, mais la vitamine B2 dont je parle, c'est jaune fluo. Alors évidemment, les gens, ce qui est intéressant quand on a un gros déficit en B2, on prend de la B2 sous sa forme active, hein, donc c'est la forme phosphatée, on ne prend plus les vitamines B actives. C'est riboflavine de phosphate, si je me souviens bien. Et ça change pas la couleur des urines. Mais là, c'est qu'on avait un bon déficit. Et puis, à un moment donné, après X temps, hop, il y a du jaune fluo qui apparaît dans l'urine. Les gens en panique, mais c'est la B2 qui commence un peu à déborder et qu'on voit dans l'urine. Donc ça, c'est un jaune fluo, mais c'est pas le jaune fluo de celui qui ne boit pas assez.
Vous donnez des recommandations de quantité d'urine sur la journée. Forcément, l'hydratation qui en suivra sera fonction de l'activité physique qui a été faite durant la journée et des températures. Mais ça sous-entend quand même qu'il faudrait boire 1,5 litre à 2 litres par jour, grand minimum. Bon, il y a de l'eau dans l'alimentation générale, mais...
Il y a la soupe et puis bon...
Oui, bon. La soupe, ça compte comme de l'hydratation. On le compterait un petit peu en termes de volume.
Ok. Oui, ben, bien entendu. Mais je vois bien, je vois très bien ça avec mes petits animaux. Bon, Goliath nous fait l'honneur de pas trop se... Voilà, il sommeille. C'est typique des chats, hein, qui ont quand même... c'est difficile d'avoir des chats qui sont recueillis, qui ont été mal habitués. Donc, ils ont tous quand même des envies de croquettes. Ces animaux-là, ils vont manger plus de croquettes ou plus d'aliments humides. Ils adaptent immédiatement leur consommation d'eau. Hein. On le voit tout de suite. Ils sont logiques. Et la sensation de soif, c'est l'occasion de le rappeler parce que c'est très important. Elle peut se perdre. Ce qui est choquant parce qu'on ne vit pas sans eau, mais on peut très bien s'habituer à boire trop peu. Et ne pas avoir de rappel, c'est une mauvaise habitude qu'on prend.
Ou avoir faim.
Oui, mais là, on peut vivre 3 semaines sans manger, on ne va pas vivre 3 jours sans boire.
Est-ce que c'est trop tard ?
Non, ce que je veux dire, est-ce que cette sensation de soif, des fois, on a faim ou les gens ils ont envie de se boire un café, et est-ce que ce ne sont pas des fausses sensations alors qu'il faudrait juste qu'on s'hydrate ?
Bien sûr, et en plus, puisqu'on parle de ça, bien souvent, ça part dans tous les sens. Effectivement, tu peux très bien te dire que tu as envie de manger quelque chose parce que tu veux juste un peu te changer les idées, te faire un peu du bien, et tu bois et tu n'as plus faim. Et alors, si tu prends un café, c'est diurétique, ou un thé, c'est diurétique, et en réalité, tu n'arranges rien au problème de la soif et des besoins en eau. Mais effectivement, c'est important, cette histoire d'eau, on n'en parle pas assez. Alors, on va le faire maintenant, parce que sinon, on ne le fera jamais. Comment est-ce qu'on récolte correctement les urines de 24 heures? Parce que on parle de chiffres, on n'a pas dit comment récolter. Alors, c'est très simple. On se réveille le matin. Alors, attention, il faudrait que ce soit quand même 2 jours consécutifs à la même heure. Pas un vendredi où on se lève à 6 heures et le samedi où on se lève à midi. Hein, parce que les gars, le vendredi soir, vous sortez en boîte. Hein, bon, tout le monde le sait d'ailleurs.
Très sage, hein, très sage. On a coulé, Georges.
Il y a des photos qui circulent, hein, je vous préviens.
Oui, mais c'est à l'époque. Maintenant, c'est
on
fini.
On était moines, Georges.
Les photos, elles restent. L'Internet n'oublie rien.
Après, alors, on peut se réveiller.
On va dire 8 heures du matin, hein, 2 jours consécutifs. Le premier jour, on se lève, on va vider sa vessie à la toilette. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a dans la vessie, c'est de la nuit avant. Or là, on commence à récolter les urines à 8 heures du matin. On ne veut pas ce qu'il y a de la nuit avant. Okay ? Donc, on va pisser. La fois suivante où on a besoin d'uriner, on récolte ses urines dans un pot. C'est pas stérile, hein, c'est pas des pots stériles, propres. Bon, ouais, il faut quand même que le pot soit propre. Ça peut être une bouteille en plastique recyclé, récupéré, ou un récipient qu'on a chez soi, en plastique, en verre, peu importe. Et donc, là, il faut faire attention, peut-être se dire, par le bonjour, parce que je vais aller à 36 endroits, beaucoup de voitures et tout ça, ça va être compliqué dans les bouchons sur le périph'. Bon, on fait peut-être ça plus facilement un jour de week-end ou un jour où on ne se déplace pas. Peu importe, on récolte tout. On peut aussi se débrouiller, personne ne va aller voir si vous vous enfermez dans les toilettes. Voir ce que vous faites avec votre bidon. Bon, y a toujours moyen de s'organiser, mais parfois c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc toutes les mixtions dans leur totalité, tout de tout, sauf la première on élimine. La nuit, si on s'éveille, rebelote, toujours dans le pot. Et là, il faut un peu s'organiser, parce qu'évidemment, hein, si on oublie... On loupe le truc. Il faut être faut une récolte vraiment complète. Et puis, le deuxième matin, à 8 heures, on se relève. Mais là, ce qu'il y a dans la vessie, ça appartient aux 24 heures. Donc, le deuxième matin, on vide sa vessie dans le pot ou les pots. Parce que s'il y a trop, ben, on met sur deux pots. Puis on... Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'il y a deux bouteilles, vous urinez 2 litres, vous avez pris des bouteilles en plastique qui font 1,5 litre, il y en a une qui est pleine, l'autre qui est en partie. Il faut homogénéiser ça pour fournir, pour faire des tests, etc. Hein, pour calculer la créatinine sur une urine de 24 heures. Parce que le problème, pourquoi est-ce qu'on fait aussi des urines de 24 heures pour que ce soit correct? Pour l'iode, c'est pareil d'ailleurs. Hein, doser l'iode sur une urine aléatoire, c'est débile. Il faut sur des urines de 24 heures parce que, d'ailleurs, ça, on le voit à la couleur des urines. L'urine peut être plus dense, plus foncée à certains moments qu'à d'autres. Ce n'est pas nécessairement que la nuit, ça va devenir plus foncé. Si on a dîné le soir avec des épices un peu diurétiques, on va pisser de l'eau pendant la nuit et donc ça va être dilué. Il faut toujours parler en termes de concentration. Et pour arriver à une concentration, il faut récolter tout, mélanger, homogénéiser, connaître le volume, parce que qui dit quantité, ben, c'est par litre. S'il y a 2 litres, ben, évidemment, il y aura le double de quantité que s'il y a 1 litre. Et alors, vous avez une concentration sur une de 24 heures, et ça, c'est un paramètre de rêve. Et le mieux dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, je ne sais pas si vous ne me sentez pas venir, ce que je vais sortir là, c'est énorme, vous ne l'avez pas vu venir, c'est gratuit. C'est gratuit. La récolte d'urine de 24 heures, c'est gratuit. Et donc, si on foire, ben on recommence le lendemain. Voilà. Ou sur le lendemain.
Vincent, tu avais une question ?
Ouais, j'ai une question. En t'écoutant, Georges, c'est vraiment l'hydratation, c'est encore un sujet, on n'a pas vraiment compris l'ensemble du sujet. Il y a une question qui me revient, c'est dépendant de l'activité dans la journée, mais est-ce qu'il y a une question de timing? Tu sais, on parle beaucoup de timing alimentaire. Est-ce qu'il y aurait un timing d'hydratation, l'hydratation au réveil qui serait plus importante que dans la journée? Est-ce qu'il y a une question de fréquence?
Une question intéressante à laquelle je ne pense pas spécialement spontanément parce que voilà, il faut obéir à sa sensation de soif pour autant qu'on ne l'ait pas massacrée. Parce que la sensation de soif peut être massacrée. Et là, l'organisme en a marre d'envoyer des signaux et qui n'aboutissent à rien. Les gens, ben, ils reçoivent des signaux, ben, ils ne vont pas boire. Alors, l'organisme, à un moment donné, je n'ai pas fait le geste, hein, mais j'ai amorcé. Quand je n'envoie plus de signaux, tu ne bois quand même pas. Ça ne sert à rien, c'est du gaspillage d'énergie. Hein, parce que tout ça, tous ces circuits nerveux qui te disent t'as soif, faut aller boire. Si tu n'obéis jamais, le corps arrête. Et c'est pareil pour le sel. On peut se déshabituer de la consommation de sel, notamment parce qu'on entend tout et son contraire sur le sel. On ne va pas recommander le sel aux hypertendus. On est tous d'accord là-dessus. Mais on ne va pas interdire le sel. Et notamment, moi j'ai des gens qui ont une tension trop basse et qui n'osent pas manger du sel parce qu'on leur a dit que le sel était mauvais. C'est quand même catastrophique comme fausses rumeurs qui circulent. Et donc, c'est des gens qui manquent qui mangent pas assez de sel. Quand on teste le sodium sur urine de 24 heures, parce que le sodium dans le sang, il va toujours être normal. Si le sodium dans le sang est trop bas, ben, la personne est morte. Donc, on ne sait plus lui faire la prise de sang. Vous comprenez ça, que on fait une prise de sang pour que la personne soit vivante. Donc, le sodium dans le sang, je dis pas qu'on peut pas le doser, mais il est toujours normal. Alors, on peut dire, tiens, il est un peu vers le haut, vers le bas, mais c'est pas là qu'il faut intervenir, sauf cas extrême ou pathologique. Il y a toujours les cas pathologiques, mais c'est pas de ça dont on parle ici. Il y a le sodium sur urine de 24 heures. S'il est en dessous des normes que le labo propose, et ça, je ne connais pas par cœur, parce que ça va dépendre probablement du labo, des unités, etc. Je suis pas sûr que c'est vraiment standardisé, ça. Je suis à peu près certain qu'il y a aussi des questions d'unité. Si le sodium dans les urines de 24 heures est trop bas, ben, a priori, il y a un manque de sel. Alors, avant de trop vite dire aux gens qu'il faut absolument manger beaucoup de sel, toujours, évidemment, y réfléchir à deux fois avant de le dire, eh bien, on regarde la tension artérielle. Mais ces gens-là sont hypotendus. Et c'est mauvais d'être hypotendu. Ils se lèvent, ils se vacillent un peu, ils sont fatigués, ils sont raplapla. Il ne faut pas être hypertendu, mais il ne faut pas être hypotendu. Il ne faut pas trop de sel, il ne faut pas trop peu de sel. Sodium sur urine de 24 heures, iode sur urine de 24 heures, volume des urines de 24 heures, clairance de la créatinine. Avec ça, vous laissez tomber vos boulots qui rapportent pas assez, vous ouvrez des trucs de médecine, vous allez chercher un diplôme de médecin là quelque part
au Luxembourg.
Ben non, moi j'explique toujours que j'ai eu le mien à Dakar là, un dimanche matin, ils en vendent, ils sont très très bien.
Vous nous donnerez l'adresse.
Et alors rien qu'avec ce qu'on a dit aujourd'hui, sur un prélèvement gratuit, alors et c'est des analyses, ça coûte rien, sodium sur une 24 heures, ça coûte rien. Clairance de la créatinine, n'oubliez pas pour la clairance de la créatinine, il faut donner quand même la créatinine dans le sang aussi. Vous êtes sur des autoroutes, vous allez tomber sur des trucs que personne n'a vu venir.
Est-ce qu'il faut faire attention au niveau alimentation justement pendant ces 24 heures? Est-ce qu'il faut pas surconsommer des protéines ou peut-être le café, essayer de limiter, ou on s'en fout, on mange comme d'hab?
On veut, c'est justement refléter ce qui se passe d'habitude.
Okay.
Bon, on va peut-être éviter de faire quelque chose qu'on ne fait jamais. Il fausserait un peu les données. Et alors, il y a beaucoup trop, je trouve, en médecine, et notamment j'ai ce reproche là chez certains médecins fonctionnels, ou peut-être plus les médecins anti-âge, hormonologues, etc. On mange des protéines et deux heures après, on a plein de neurotransmetteurs et on danse la Java. Bon, je vais pas faire ça parce qu'on va croire que j'ai mis Trump. Mais c'est pas vraiment l'idée.
C'est vrai qu'il y avait un petit truc dans la gestuelle. La gestuelle,
ouais,
c'était.
Hein. On le voit trop souvent.
C'est peut-être la coupe de cheveux. Hein.
Oui, mais moi, c'est pas jaune. Hein. Puis il y en a au-dessus encore. Moi.
On s'égare. Pardon.
Non, totalement. Et donc, cette instantanéité, c'est un peu bidon. On me dit, mais est-ce que la veille, il y a plein de... Oh oui, mais alors pour tester ça, la veille, ne mangez surtout pas des pistaches parce que ça va tout fausser. Déjà, c'est pas réaliste. Je veux dire, on peut pas enquiquiner les gens trop. On leur demande de faire des prélèvements, des tests, ils vont devoir les payer, etc. Ils font comme d'habitude. Et les gens qui donnent trop de conseils, trop détaillés, sur des procédures trop alambiquées, c'est parce que sur leur temps de consultation, ils n'ont pas suffisamment de choses intéressantes à dire. Et ils noient les gens dans un embrouillamini de détails dont on se fout royalement.
On a dit de faire attention à moins de 1 virgule...
Comment ? Quoi ?
Vincent, ça, tu vois ce que je veux dire, hein?
Bon, la chronobiologie, de manger des protéines.
Ils sont trop dans le « oui, mais surtout, non, attention, 10 minutes avant leur repas, hein, sinon… » D'abord, les gens, ils font pas, il faut être réaliste. Et puis, si vous passez la moitié de votre consultation à partir dans tous ces détails qui sont pas vraiment importants…
On noie les gens.
Non. Mais oui, mais c'est qu'on n'a pas des choses plus intéressantes à dire sur leur hygiène de vie, pourquoi on fait tel test, ce qu'on recherche, éventuellement, voilà, si on a testé un génome, il y a plein de trucs scientifiques à dire et de arrêter d'emmerder les gens avec tout ce bazar-là. Laisser les gens boire leurs deux tasses de café en matinée sans les assassiner, comme quoi ils vont détruire leur glande surrénale avec deux tasses de café qui sont bonnes pour la santé. Toutes ces interdictions. Moi, je n'aime pas les thérapeutes, médecins ou pas, qui passent leur consultation à interdire des trucs. Déjà, c'est négatif. On doit faire des consultations où on propose des choses. On ne passe pas sa vie à interdire, sauf évidemment s'il y a des preuves ou s'il y a des excès flagrants.
Vincent, tu voulais rebondir ?
Ouais, et vraiment, l'hydratation, c'est vraiment un sujet qui est super intéressant. J'aimerais que tu donnes un peu ta guideline de quels sont pour toi les axes importants de l'hydratation pour les auditeurs. Et j'ai juste une petite remarque. Moi, j'ai exploré des moments de fatigue où, quand j'étais fatigué, tu vois, je voulais manger ou je voulais sortir un peu dehors. Et en fait, je me suis rendu compte que mes moments de fatigue étaient liés à des moments de déshydratation.
Ouais.
Et dès que j'ai pris conscience de ça, en fait, j'ai réussi à lutter sur des moments de fatigue où vraiment cette déshydratation, elle venait impacter mon énergie, tu vois.
Tout à fait, mais bon, surtout qu'il faut voir le terrain. Si tu soignes, tu vois, que tu enchaînes les séances, les patients, les trucs, t'es pas organisé, t'as pas ton... Moi, j'ai toujours un verre d'eau quand je fais mes consultations, j'ai toujours un verre d'eau à disposition. Parfois, quand j'enchaîne, je râle sur mon assistance qui ne renouvelle pas le verre d'eau suffisamment régulièrement.
Et cette fréquence, tu vois.
Mais bon, pour en arriver à avoir comme ça des coups de pompe et tout ça, c'est déjà fort avancé. Et ce qu'on a dit qui a l'air bébête, mais qui est fondamental, si tu avais un peu vérifié à l'occasion tes urines de 24 heures, tu te serais rendu compte que tu étais quand même à la limite basse, quoi. Tu vois, où tu aurais vu la couleur de l'urine. Toi, tu es là sur un détail, mais c'est un détail qui est la culmination d'une erreur sous-jacente, plus ou moins chronique, que tu dois déjà corriger en amont.
J'ai l'impression que la fréquence aussi d'hydratation, tu vois, on sous-estime aussi le fait de boire un verre d'eau, je sais pas, toutes les heures ou assez régulièrement dans la journée pour soutenir un petit peu... cette santé, je ne sais pas si ça te parle.
Ben oui, il faut pas boire un demi-litre toutes les 4 heures, quoi. Il faut boire régulièrement, mais normalement, la soif devrait corriger ça pour autant qu'elle n'ait pas été sabotée.
Et si j'ai plus de 2 litres, Georges, est-ce que je dois m'inquiéter ? Est-ce que c'est grave ?
Non, on peut être bien au-dessus de... pas tomber dans l'oreille d'un sourd.
Hein. Non, même si bien j'ai 2, c'est pas grave.
Non, mais il fait chaud, donc j'ai bu un verre là, mais ça fait, je sais pas, ça fait des heures qu'on discute. D'ailleurs, il va falloir un peu augmenter les honoraires parce que ça fait déjà.
On va les doubler, donc t'inquiète pas.
Ouais, ok. Et donc, ça doit être rattrapé par la sensation de soif, mais il y a de l'organisation. Vous qui pouvez enchaîner des séances de soins ou des activités physiques, il faut s'organiser. Il faut faut la bouteille d'eau. Alors, la bouteille d'eau en verre. Moi, la bouteille d'eau est en verre. Hein.
L'hydratation, c'est pas que de l'eau. Excusez-moi, je vous interromps, mais on parle beaucoup d'électrolytes en ce moment avec ces petites pastilles qu'on voit partout. Qu'est-ce qu'on en pense ? Utile, surcoté, ouais. Que pour le sportif ?
Au gymnase, on peut faire ça. Je trouve que c'est assez logique. On peut aussi profiter évidemment du même bidon d'eau. On ajoute des électrolytes, on peut ajouter un truc énergétique ou des acides aminés ou tout ça dans le bidon en question. Puisqu'on parle de ça, moi je ne suis pas du tout pour... on parle de séances normales, hein, pas des trucs extrêmes et très longs ou méga intenses, mais avant une séance d'une heure au gymnase, on ne mange pas. On mange pas une barre protéinée pour aller s'entraîner une heure au gymnase. Moi, ça c'est le truc qui me rend le plus fou, qui me met le plus en rogne de tout. C'est je suis en train de manger une banane, je vais au gymnase. Ah, je dis bon, pourquoi ? Je dis le glucose qui va venir de la banane, qui contient d'ailleurs beaucoup de fructose, beaucoup trop, ça va. Le temps d'arriver au gymnase, ben oui, parce que je vais direct, hein. Je dis oui, mais il n'y a pas un petit échauffement là quand même, un peu d'assouplissement, un petit peu de cardio zone 1, 2 pour avant de commencer les choses sérieuses. Je dis la banane, elle va toujours, ça va, elle va rester en, elle va flotter, hein, rester en suspension. Puis je dis, oui, mais c'est rien, non, c'est, j'enchaîne, j'y vais là, j'y vais. Je dis, oui, et si tu crèves un pneu? Tu ne vas pas y aller. Tu dois remplacer ton pneu crevé. Ou sur, le métro est en grève. Tu vas pas arriver au gymnase. Et ta banane, alors, tu fais quoi avec ta banane? À part du foie gras ou de la.
Hein, aïe, 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 aïe.
Du stockage. Non, on ne mange pas avant. Alors bon, évidemment, une voilà, ici, dimanche, c'est Paris-Roubaix, ça va durer 6 heures, c'est l'enfer du Nord.
Oh là là, j'ai tellement hâte, ça va être exceptionnel.
Ils font un petit déjeuner, hein, bien entendu, mais toujours avec quand même deux bonnes heures avant le départ de la course, 2-3 heures avant le départ de la course, pas 5 minutes.
Il y aura de la pluie ou pas, Georges, ce week-end?
Je crois pas.
Vas-y, Pierre.
Très peu.
Georges, qu'est-ce que c'est les conseils d'hydratation de Georges et les conseils d'anti-hydratation de Georges? Sous-entendu, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour s'hydrater? Qu'est-ce qui ruine votre hydratation? Café, thé, alcool, des grands interdits?
Voilà, tu l'as dit. Bon, tout ce qui est diurétique, ben, c'est un peu à contresens. Hein. Maintenant, on peut, comme je disais tout à l'heure, bien entendu autoriser 2-3 cafés. Bon, moi, je bois 2-3 cafés avant midi, 14 heures, parce que parfois, j'ai quand même encore envie entre midi et 14 heures, mais ça, c'est un troisième et dernier. Et rien n'empêche de boire. C'est pas non plus ouvrir les écluses et parce qu'on a bu un café, on va pas non plus. Celui qui évidemment sirote des thermos de café, 10 cafés pendant la journée, qui viennent d'un machin ou d'un distributeur truc muche et qui ne boit que du café, bon là il a un problème parce qu'il n'a jamais de l'eau pour. On peut très bien compenser le café par de l'eau. L'alcool, bien sûr, la gueule de bois, c'est essentiellement la déshydratation quand on a bu trop de vin ou trop d'alcool, enfin en soirée. Et la meilleure prévention de la gueule de bois, ben, c'est de boire beaucoup, y compris avant d'aller dormir et quand on s'éveille la nuit. On dort mal quand on a bu de l'alcool, de toute façon, donc on s'éveille. Et puis le matin en se levant, si on est un peu lourd, ben, il faut s'hydrater, boire beaucoup de l'eau pure et ça va tout de suite mieux. Donc l'alcool, ben, non, mais des cafés, c'est pas non plus des crimes. Hein. On retombe un peu dans l'excès d'interdit. Mais c'est vrai que la seule et bonne hydratation, ben c'est ça, c'est de l'eau. Alors, habitude d'expat en Haïti où je suis né, je mets toujours des glaçons. Alors, les gens me disent, mais c'est très mauvais de boire froid, docteur Mouton, mais qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, bon, je suis quand même dans ma 60e année, je vis toujours et pourtant je mets des glaçons dans de l'eau. Maintenant, par contre, pour ce qui est de boire de l'alcool, bon, je crois que j'en suis à peu près à une bouteille de vin par mois, de vin rouge par mois, et peut-être pas encore tous les mois. Donc, bon, voilà, je me permets les glaçons, si vous permettez.
J'ai une question pour toi, Georges. C'est quoi le rôle de l'eau dans notre corps? Est-ce que c'est de nous hydrater, de permettre un environnement propre à la vie, ou est-ce que c'est de minéraliser? Tu sais, parce qu'il y a des filtres à eau qui reminéralisent derrière. Est-ce que l'alimentation suffit pour nous amener un apport de minéraux? Quel est le rôle de l'eau?
C'est essentiellement la molécule H2O. Hein. Les minéraux peuvent venir de l'alimentation. Maintenant, s'il n'y en a pas assez dans l'alimentation, ben, ça c'est pas inutile d'avoir des eaux minéralisées. Et c'est compliqué, cette histoire d'eau. Je ne pense pas que c'est vraiment une bonne expertise là-dedans. Il y a tout un tas de... parfois d'inconvénients dans les eaux minéralisées parce que il y a souvent d'autres minéraux qui viennent en plus et qui sont pas toujours les plus intéressants, des sulfates, des phosphates qui viennent avec les minéraux classiques, calcium, magnésium. Le but de boire de l'eau, c'est la molécule H2O, c'est pas les minéraux. Maintenant, on peut quand même personnaliser un peu, on peut identifier des gens qui sont un peu en manque de magnésium par exemple et avoir une eau minérale plus riche en magnésium. Ça peut, pourquoi pas, mais on peut aussi corriger ça différemment avec des sources alimentaires de magnésium ou de la supplémentation en magnésium qui est souvent nécessaire chez les sportifs parce qu'ils transpirent. On transpire beaucoup de magnésium, beaucoup de zinc. Donc, il y a souvent aussi des manques de zinc. Et on ne va pas boire des eaux riches en zinc. Donc, le zinc, ben, je ne sais pas, c'est les huîtres, c'est le jaune d'œuf, c'est les produits animaux, ça ne va pas être des eaux. Donc, faut pas demander plus au fait de boire que l'hydratation. Et puis, pour revenir à notre thème des reins, ben, le but, c'est l'urine. C'est par là que les toxines vont être évacuées. Il est évident que la base, c'est l'eau. Et d'ailleurs, je dois fermer la boucle. Le fait qu'on peut s'habituer à accepter une soif anormale et ne pas avoir le rappel, hein, c'est facile, on y est vite. Hein. Il suffit, par exemple, je sais pas, vous changez d'habitude professionnelle, vous êtes embauché dans un plus gros cabinet et on vous fait travailler à la chaîne, etc. Vous n'allez pas être organisé avec votre eau. Vous allez vous retrouver à avoir beaucoup trop peu bu de la journée. Vous aurez peut-être des crampes, hein, aux membres inférieurs, aux pieds, aux mollets, la nuit suivante, parce que les crampes nocturnes, ça peut venir évidemment d'une déshydratation. Puis alors évidemment avec les minéraux qui peuvent manquer aussi, magnésium, potassium, bien entendu. Et ce changement d'habitude va très vite créer une acceptation d'une soif qui ne devrait pas être tolérée. Pareil avec le sel. Hein, vous allez, alors moi j'ai eu un cas ici récemment, très intéressant, quelqu'un qui se rend compte que ça va pas, mais son père est hypertendu et elle va manger tous les jours midi et le soir aussi je crois. Elle est beaucoup avec son père pendant la semaine parce qu'il est malade. Donc voilà, elle va aider sa mère à s'occuper de son père. Donc elle mange chez eux, ça l'arrange parce que elle doit pas faire à manger. Il n'y a pas de sel parce que le père est très hypertendu, il a un régime très pauvre en sel. Elle a un manque de sel catastrophique et c'est toléré. Et ce qui est très intéressant et très interpellant, alors peut-être qu'un de vous trois est le futur prix Nobel de médecine parce qu'il va apporter une réponse à cette question fondamentale. Comment est-il possible que les deux seuls éléments cruciaux, point de départ pour envisager toute forme de vie, c'est-à-dire l'eau et le sel, qu'on puisse perdre le besoin de prendre suffisamment d'eau et suffisamment de sel. C'est très contre-intuitif. C'est les dernières choses qu'on devrait tolérer dans le manque. Et pourtant, et c'est courant, hein. Je suis certain que vous avez tous des patients. Si vous dites, tiens, c'est bizarre, on a parlé justement avec le bon belgo-luxembourgeois, là, un peu bizarre, mais enfin, bon, on a quand même passé quelques heures avec lui récemment. Demandez, et les gens vont dire, ah, mais c'est vrai, ils n'ont pas la bouteille d'eau ou un récipient. Bon, attention aussi que ce n'est pas des trucs de plastique où le plastique se délite dans l'eau ou bien que c'est au soleil, dans votre voiture.
Parce qu'on est fait pour survivre, Georges, pas forcément pour être optimal.
Oui, mais nous, on n'est pas dans la survie ici. On n'est pas à attendre que la fonction rénale s'écrabouille pour commencer à se dire, tiens, on aurait dû faire attention plus tôt.
C'est pour ça que tous les gens sont en état suboptimal, c'est tout.
Éducation à la santé. C'est ça que nous devons faire. C'est là que nous sommes en train de
s'enfoncer des portes
ouvertes, mais que les gens ne captent pas.
Mais Georges, juste une question par rapport au sel. C'est hyper intéressant parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sel. Je pense que certains essayent justement de l'enlever de leur quotidien. Moi, par exemple, qui suis plutôt sportif, je fais pas mal d'endurance, on me dit au contraire qu'il faut que j'en surconsomme. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à nos auditeurs de 1000% par rapport à cette relation avec le sel?
Je pense que
Vincent va compléter peut-être ma question.
Non, mais il y a aussi sel et sel, non? Parce que c'est pas, il y a différentes qualités de sel.
Moi, je mets les sels naturels iodés. Iodés naturellement, hein, pas des sels qu'on a iodés en usine parce qu'il y a des impuretés, des trucs chimiques, etc. Donc, c'est vrai que le sel est aussi une source. Et l'iode, c'est un énorme problème aussi. Donc, quand on a du sel iodé, ben, alors on me dit, oui, mais l'iode dans le sel iodé, il s'évapore. Bon, il se volatilise. OK, mais il y a. Bon,
c'est mieux que rien.
Il y a quand même plus d'iode dans le sel iodé que dans le sel pas iodé.
Donc, comment on se place, Georges, par rapport à ça, par rapport à des profils de gens? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de recommandations sur le sel? Est-ce qu'il y a des indications?
Déjà, il devrait, les gens, c'est parce que les gens veulent, alors ça, c'est peut-être intéressant à dire ici, les gens veulent être coachés. Et moi, je pense pas que c'est bon de toujours répondre par du coaching aux gens. Il faut leur dire, mais, s'ils corrigent éventuellement un excès ou un manque, que ce soit d'eau ou de sel, parce que c'est les mêmes problèmes, et qu'on remet ça un peu sur rail, éventuellement avec un peu d'aide ou avec un dosage du sodium sur une de 24 heures, ça coûte 4 euros, ok? Il faut encore faire les urines de 24 heures, mais on a expliqué comment, on a rappelé que c'était gratuit. Bon, on les remet dans le droit chemin. Une fois que ils ont eu ce coaching de départ ou ces corrections de départ, si besoin, il y en a qui sont plus ou moins un peu logiques avec eux-mêmes, c'est leur sens qui doit corriger le tir. Hein. C'est pas du coaching, il n'est pas question de leur dire, voilà, toutes les 63 minutes, attention, hein, ça doit être précis parce qu'il y a quand même des publications qui, que bon, hein, mensonges et honte, bien entendu, pour faire les malins, les thérapeutes qui n'ont pas grand-chose d'intéressant à apporter, ils font les malins, ils inventent un tas de couillonnades, passez-moi l'expression. Non, au contraire, il faut dire aux gens, mais est-ce que vous faites attention à vos sensations de soif? Les gens ne font plus du tout attention à leurs signaux corporels. Et l'erreur est fondamentale et gravissime en médecine, et ça dure depuis des décennies, on n'en est toujours pas sorti. Il y a eu un moment après, je sais pas, dans les années 60, 70, à mon avis, vous n'étiez pas né, je sais. Moi, j'étais déjà âgé à l'époque, mais on a commencé à dire aux mères, oh, attention, le lait, je dis souvent ça, mais est-ce que vous vous rendez compte ce qu'on a pu débiter comme ânerie aux gens? Le lait, maintenant, les laits modernes fabriqués en industrie, etc., sont beaucoup meilleurs que le lait maternel parce qu'on a toute la technologie, le savoir-faire, les connaissances, etc. Mensonge et honte. Marketing criminel. Génocidaire. Mais alors, on a fait pire. Faire croire donc aux mères que leur lait était moins bon que le lait qu'on allait leur vendre, c'est quand même... Ça s'approche du génocide, ce genre de truc.
Mais c'est le progrès, Georges.
Hein, tout comme on a fait
croire... La technologie, le futur...
Oui, ben tu parles. On est loin du compte hein, pour le lait. Avec les dizaines d'oligosaccharides différents du lait humain, je peux dire que, hein, il va falloir...
On les habite,
on est bien d'accord.
Énormément de technologie. Mais on a fait pire. On a dit aux mamans que leur nouveau-né, il fallait le réveiller tous les 2 heures pour les faire boire.
Mais il faut qu'ils consomment aussi, Georges. C'est important.
et donc, au lieu de laisser certains nouveau-nés qui ont faim plus souvent parce que voilà, ils ont une glycémie moins stable et qui sont faits comme ça et que c'est leur ADN et leurs habitudes ou tout simplement leurs envies et toute l'intégration de tous les signaux au niveau du cerveau et de l'hypothalamus en particulier, et il y en a certains qui vont demander la tétée toutes les 2 heures et d'autres toutes les 4 heures. Avec peut-être une moyenne de 3 heures, enfin, j'en sais rien, parce que bon, je ne vais pas vraiment allaiter, mais les médisances. Donc, on a beaucoup fait ces erreurs-là. Et le surcoaching moderne, mais c'est un peu comme ça aussi. Donc, le coaching, c'est bien quand on rectifie des erreurs qui sont flagrantes ou qui ne sont pas flagrantes, mais qu'on détecte parce qu'on a dit aux gens, ben, la prochaine fois que tu viens, amène un peu des urines de 24 heures, voilà comment tu les récoltes. Il va dire, oula, oui, mais ça va pas, ça. Ben, remarquez que moi, j'ai déjà eu des 11 litres. Bon, là, il peut y avoir aussi une anomalie, soit...
11 litres, qu'est-ce qui s'est passé?
Si, c'est absolument authentifié. Et...
C'est prouvé, Georges, il y a un papier, c'est PubMed.
C'est toujours, en
plus, ils t'ont testé là.
Quand on récolte, le patient amène 11 litres, la clairance de la créatinine, elle est toujours logique. Parce que ça aussi, quand les gens ont foiré leurs urines de 24 heures, pour autant que je connaisse le patient, je sais que leur clairance de la créatinine est aux alentours de 110. Un an après, quand ils reviennent faire un contrôle, je vois une clairance de la créatinine de 80. Je vois que les marqueurs sanguins sont stables. Donc, c'est pas du tout leur rein qui commence à s'effondrer. J'ai dit, ah, vous avez oublié une ou deux récoltes d'urine. Ah, c'est vrai, docteur, mais comment est-ce que vous savez ça? Ben, écoutez, c'est la clairance de la créatinine. Il n'y a rien de plus stable que ça. Hein. C'est vraiment, pour un patient donné, je ne dis pas sur des décennies, mais d'une année à l'autre, c'est très stable. Donc, on peut détecter des erreurs avec une simple récolte d'urine de 24 heures, on en a beaucoup parlé, avec des petits dosages de rien du tout dont on a parlé aussi, à des budgets mais ridicules, et détecter de graves erreurs sur des sujets fondamentaux. Là, il y a besoin d'un coaching. Mais une fois qu'on a corrigé ces erreurs-là, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Tu dois boire toutes les 126 minutes? Non. On doit leur apprendre à dire, bon voilà, maintenant, normalement, vous ne devriez pas avoir soif. Hein, ne vous laissez pas avoir soif. Ne vous laissez pas avoir envie de saler. Parce que si on a envie de saler, c'est typique, par exemple, qu'après un truc très stressant, beaucoup de gens, la plupart des gens, truc très stressant, ils vont avoir envie de cacahuètes salées parce que ils ont bouffé les surrénales ont pompé du sodium et j'ai des exemples vécus cliniques des acteurs après ils sortent, ils rentrent du théâtre ou d'un one man show, il leur faut du sel parce que c'est le stress est énorme quand ils sont là pour amuser la galerie. Déjà moi ici je dois vous amuser tous les trois, mais quand il y en a 3000, ça pompe plus.
Georges, on a bien compris donc d'écouter ses sensations, d'essayer de se connecter au maximum. On a parlé donc de l'hydratation, on a parlé des protéines, on a parlé également un petit peu des médicaments qu'il fallait faire attention, qui pouvaient abîmer parfois le rein. Est-ce qu'on doit...
Il y a une liste infinie. Vous trouvez ça facilement sur Internet. Hein. Vous demandez à l'IA. Une liste infinie de médicaments qui abîment les reins. Donc, si vous êtes en train de prendre ces médicaments-là, alors que votre médecin qui vous prescrit le médicament n'y pense pas, demandez-lui de faire un contrôle de la clairance de la créatinine pour voir si elle ne commence pas à être impactée. Et parfois, c'est...
Vous pouvez nous en citer quelques-uns de ces médicaments, docteur Mouton? Les plus connus, 4 ou 5.
Oh, c'est l'horreur. Hein. Je crois que j'ai une liste.
Aïe, aïe, aïe. Ne sortez pas les statines encore, hein. On en a marre d'avoir les statines partout.
Spécialement, alors, c'est le point 5.
Donc, si vous êtes encore là, n'hésitez pas toujours pareil à liker la vidéo, vous abonner, mettre un petit commentaire, poser vos questions. D'ailleurs, si vous avez aussi des expériences à partager, que ce soit par rapport à un médecin, un traitement que vous avez eu, n'hésitez pas. L'avantage qu'on a, c'est que Georges vient souvent en commentaire répondre.
Et surtout, si vous êtes encore là, parce que vous attendez d'avoir la réponse quant à savoir d'où proviennent ces calculs rénaux, Georges va bientôt embrayer sur le sujet, donc restez connectés.
Et aussi, on verra s'il y a aussi de la complémentation pour protéger aussi le rein. On finira par ça aussi, s'il y a quelques petites choses à mettre en place.
Moi, j'ai envie que Georges nous parle des oxalates.
J'ai une magnifique liste, mais
je sais pas s'il veut nous. Je crois qu'il veut pas trop en parler des oxalates, hein, je crois. Et...
Non, mais ça l'intéresse pas. Ou peut-être qu'il en sait pas suffisamment.
Vous en avez déjà parlé. Qu'est-ce que je peux encore ajouter, moi? Voilà, les médicaments. Bon, c'est pas triste. Hein.
Aïe.
Il y en a.
Cinq ou six, hein, les plus connus peut-être. Enfin, les plus courants, surtout. Voilà. On a parlé du paracétamol pour le
fond. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, des antibiotiques puissants. Dans les antibiotiques puissants, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont néphrotoxiques. Peut-être même dans les moins puissants. Certains antiépileptiques. La ciclovir, donc l'antiviral de base que les gens prennent quand ils ont de l'herpès. Enfin, du côté des antibiotiques, c'est plutôt la règle que l'exception. Même des antibiotiques relativement banaux. Hein. Bon, tout dépend de voir pendant combien de temps on les prend. Hein. Mais alors, il y a des gens qui sont sous des traitements antibiotiques prolongés, ça peut quand même faire pas mal de dégâts, que lors des médicaments un peu plus sophistiqués, qu'on donne dans des pathologies plus graves. Voilà.
Les antibiotiques, c'est à cause de...
Tout médicament, a priori, doit quand même être surveillé si la prise se prolonge, tant du côté foie que rein. Il faut faire des gamma GT. Le meilleur test pour la toxicité médicamenteuse sur le foie, c'est gamma GT. C'est l'enzyme gamma GT. C'est pas les autres enzymes qu'on appelle les transaminases. C'est gamma GT. Parce que ça, c'est un enzyme de nécrose hépatique. Donc, dès qu'un médicament détruit des hépatocytes, les gamma GT augmentent. Le paracétamol en question dont on parlait tout à l'heure, surtout si on n'a pas la phase 2 dont je parlais, qui est glutathion S-transférase M1, explose les gamma GT, mais ça vous, sont multipliés par 10 en une semaine. Les gens se bourrent de paracétamol pour, par exemple, de fortes douleurs dentaires, parfois après des opérations, etc. Mais c'est catastrophique. Alors, on voit aussi des explosions de gamma GT sur des prises d'antibiotiques pendant 10 jours.
Pouf. Comment on peut limiter ça?
Post-anesthésie générale, on voit une grosse souffrance hépatique. Donc, c'est vrai que la réaction hépatotoxique est parfois plus rapide et plus spectaculaire que la réaction néphrotoxique. La réaction néphrotoxique qu'on détecte avec ce qu'on a expliqué aujourd'hui va demander un peu plus de temps pour se mettre en place. Hein, donc, c'est sur des prises plus chroniques, pas sur des prises de quelques jours.
Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, excuse-moi, juste Vincent, pour finir ça, pendant le traitement, est-ce qu'on peut...
Si on voit que c'est en train d'abîmer les reins, il faut arrêter le médicament, évidemment. D'ailleurs, c'est comique, j'ai fait hier soir le dossier d'un de mes patients, un homme fourragé, un cas médical complexe, etc., et qui, à un moment donné, au début, ça fait 4 ans que je m'en occupe, dans les premiers échanges, on lui avait donné un cocktail de médicaments. C'était hépatotoxique à mort. J'ai vu, il est venu avec des résultats qui dataient de la semaine avant de son médecin traitant, alors qu'il venait pour une prise de sang, mais il avait quand même des résultats. Je dis, oula, bon, j'ai vu ça, le foie et les reins en pleine déconfiture. Je dis, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout maintenant, tout de suite. Parce que parfois, c'est l'iatrogénicité, les gens meurent aussi des effets toxiques des médicaments. Et donc, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, ça peut aussi être utilisé. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je veux dire, bon, est-ce que c'est bizarre, ça fait quand même maintenant des semaines que je prends ça, je regarde la notice. Ah oui, la notice, elle vous dit quand même, hein, si c'est hépatotoxique ou néphrotoxique ou les deux. Soit vous demandez au médecin, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de vérifier. On n'est plus dans le l'assistana généralisé. Hein. Vous allez dire oui, mais je voudrais bien que mon médecin va dire oh, il m'a envoyé sur les roses parce que hein, pour lui ça va aller. Oui, mais moi je me sens pas trop bien, je suis un peu raplapla, un peu fatigué, je le sens pas. Ben, faites. Une petite prise de sang, gamma G, urée, créatinine, voilà, vous en avez pour rien du tout, là, pour 16 euros, hein, et dire où ça va pas, parce que il faut un peu apprendre à s'occuper de soi, et on ne peut pas que faire confiance au système, parce que le système est débordé, est dépassé. Et il faut comprendre, il faut admettre, c'est comme ça. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, faites. Et ici, on éduque à cette vigilance. C'est une éducation à la vigilance personnelle. Et assez d'assistana, pas un coaching détaillé. Tu te lèves à 7h15, tu dois aller pisser, puis tu dois... non, tu dois t'écouter et être logique, t'informer. Tu prends un médicament, tu lis la notice. Ah ben oui. Parce que le médecin, il n'a pas eu le temps, il était en retard, il a fallu faire la consultation en 5 minutes, t'as prescrit un truc néphrotoxique, tu lis la notice, c'est néphrotoxique, ça fait 2 mois que je le prends. Bon, quand est-ce que je peux avoir un rendez-vous de contrôle, je me sens pas trop bien, je suis fatigué. Bon, soit il va t'envoyer sur les roses, va pas vouloir faire le contrôle, ou il n'y a pas de rendez-vous, ou il y a trop de délai, je veux dire, pour avoir un rendez-vous. Eh bien, ce que je dis, c'est pas gratuit, mais tout n'est pas gratuit, la santé n'est pas gratuite. Enfin bon, je m'égare, mais je trouve que c'est des messages qu'il est important qu'un podcast 1000% fasse passer. C'est ça le 1000%. Sinon,
1000% c'est gratuit. Hein.
10%. Juste, Vincent, tu es d'accord avec moi?
Non, mais je suis d'accord. Et ce que je voulais te dire, c'est aujourd'hui, le sujet, c'est la prévention pour la santé de nos reins. Donc, on a vu que les médicaments peuvent être une cause, mais elle est multifactorielle aussi. Tu nous as parlé de la thyroïde, des maladies auto-immunes, mais surtout du lien digestif-rein. Est-ce que tu peux rentrer dedans pour vraiment nous parler de cet axe entre intestin et rein?
D'accord. Mais alors là, je vais quand même exiger quelque chose. Donnant, je vais quand même parler de gut-kidney axis. Parce que c'est-à-dire qu'une des premières causes...
Pas sûr de mon accent, en vrai.
Une des premières causes de détérioration rénale, c'est une détérioration de l'écosystème intestinal par de multiples biais possibles. Et là, on va quasiment faire le tour des différentes choses qu'on a évoquées, on va pas faire un truc trop médical, hein, parce que là, ça rentre dans des choses un peu plus médicales. Donc, pour votre public, c'est peut-être un peu poussé trop. Mais on va avoir des problèmes de dysbiose et donc de perméabilité intestinale, d'hyperperméabilité intestinale. Et il y a une grande cause de détérioration lente, mais pernicieuse et sérieuse de la fonction rénale, qu'on va trouver, comme on a dit au tout début, par hasard, par chance, parce qu'on regarde, hein, on ne sent rien, il n'y a pas de symptômes à ce stade-là. C'est une maladie de Berger, je suis désolé, hein, pas fait exprès. Maladie de Berger qui est une des formes, parce que c'est complexe, d'hépatite auto-immune. Alors, il y a souvent des immunoglobulines A qui sont impliquées, et puis il y a tout un tas de sous-maladies dans cette espèce de nuage de pathologie rénale auto-immune. Bon, ben là, évidemment, c'est affaire de spécialistes et tout ça, mais on va dépister qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond avec notre clairance de la créatinine qui commence à décliner, qui décline. Tiens, c'est bizarre, je l'ai fait il y a 2 ans, c'était déjà un peu moins bien qu'il y a 4 ans, et puis ici ça descend encore. Les gars, vous c'est quoi, vous jouez à l'euro-million, c'est ça? Vous dites, mais j'ai pas gagné cette fois-ci, mais je gagnerai peut-être la fois prochaine. Si ça fait ça et puis ça, mais les petits gars, ça va faire ça, hein. Et vous attendez où? Vous attendez quand la médecine conventionnelle va intervenir? Elle va intervenir beaucoup plus en aval encore, beaucoup plus tard. Donc ça, c'est la maladie de Berger, c'est auto-immune. C'est tout ce qu'on raconte sur la santé intestinale vis-à-vis de l'auto-immunité, avec évidemment l'arrêt du gluten. D'ailleurs, dans une de mes vidéos sur ces sujets-là, c'était même pas ce sujet-là, c'était une sportive. Si je me souviens bien, c'était même une qui s'était lancée dans un 100 km. Bon, elle n'était pas vraiment prête pour, enfin voilà, elle avait envie, elle s'est bien mise de travers, je crois qu'elle s'est prise une incapacité de travail de je ne sais pas combien de mois derrière, ce qui est quand même un peu bizarre, parce que ce sont nos taxes, les gars, qui payent ce genre d'incapacité de travail un peu limite. Mais c'est une femme qui avait plein de problèmes de santé, de toute évidence liés au gluten, qui s'en était rendu compte, qu'il avait arrêté, tout allait beaucoup mieux, c'était son témoignage, mais 20 ans avant ou plus, elle avait déjà été diagnostiquée avec une maladie de Berger, qui s'était plus ou moins tassée, mais donc il y avait de l'auto-immunité. S'il y a de l'auto-immunité, vous en étiez le gluten. Ça, c'est déjà un premier gut-kidney axis. Un autre, c'est évidemment...
Je suis désolé, je te coupe, Georges, c'est juste que tu as dit que c'était une maladie hépatique. Mais c'est une néphropathie, non, le syndrome du Berger?
Rénal. On a tellement parlé okay. de fois que
bon, c'est juste pour.
Rénal, oui, rénal. Si j'ai dit hépatique, c'est rénal. Mais évidemment, il y a aussi des maladies auto-immunes du foie, hein, avec les mêmes quasiment tout ce qu'on raconte, c'est transposable. Ce n'est pas pour rien qu'on est tout le temps en train de jouer sur les deux tableaux, mais évidemment, maladie du berger, c'est une néphropathie auto-immune. Donc, c'est bien des reins qu'il s'agit. Et les immunoglobulines A sont souvent en cause. Alors, les perturbations du microbiote ont un rôle énorme et c'est assez précoce. Donc, on peut vraiment beaucoup, beaucoup, il y a plein de publications. Ben, j'ai un webinaire là-dessus, hein, je renvoie avec plein de littérature PubMed en lien dans un bundle qui est en post-description du webinaire. Et c'est impressionnant à quel point on peut faire des parallèles, mais vraiment c'est proportionnel quoi. Plus le microbiote est altéré, plus les reins sont en souffrance. Et d'ailleurs, ce qui est qui me fait très plaisir et qui est très interpellant, c'est que chez tous ces patients-là, eh bien, la berbérine est excellente pour les reins. J'ai failli dire pour le foie, mais c'est pareil. La berbérine est excellente pour les reins, donc elle est néphroprotectrice. Hein, et il y a quelques sinistres individus, je ne sais pas par qui ils sont manipulés, c'est peut-être par... peut-être par l'industrie pharmaceutique qui n'aime évidemment pas la berbérine parce qu'elle a trop de nuisances pour tout un tas de traitements médicamenteux qui deviennent soit superflus, soit qui peuvent être diminués si on cède avec de la berbérine, idéalement avec des conseils de gens éclairés là-dessus. Pas nécessairement quelque chose de bien à prendre en automédication, mais c'est quelque chose de très important à connaître. Pourquoi ? Parce que la berbérine, elle transforme le microbiote dans un sens favorable. Et c'est surtout par ce biais-là qu'elle est néphroprotectrice. Il y a probablement des actions directes également néphroprotectrices par la berbérine en tant que telle ou par ses métabolites, et c'est surtout via une amélioration du microbiote. C'est d'ailleurs via l'amélioration du microbiote que la berbérine tend à faire baisser la glycémie et l'hémoglobine glycosylée. C'est toujours par l'intermédiaire du microbiote.
Tu peux rentrer dans le processus de la berbérine sur le microbiote. C'est un stress hormétique, hein, ça va pousser en fait.
C'est extrêmement complexe. Je crois qu'on n'est toujours pas complètement arrivé. J'ai encore vu un ou deux articles qui sont passés sous le regard sur mon ordinateur ce matin. Quelqu'un qui me citait, donc j'ai été voir. Je pensais me faire plaisir en allant voir ça, en effet. Et la berbérine, c'est quand même très particulier parce que on a envie de dire qu'elle diminue des surpopulations de bactéries qui deviennent pathogènes quand elles sont trop abondantes. Donc elle réprime ces proliférations, ces hypercroissances, et elle va pas détruire des bactéries dont on a besoin, une espèce de compagnonnage avec cette berbérine très particulière, qui est d'ailleurs un alcaloïde qui vient de beaucoup de plantes différentes. Il n'y a pas que le genre berbéris dont les espèces donnent de la berbérine. Il y a de la berbérine dans plein de trucs. Il y en a dans les pinevinettes, chez nous, dans les haies. Hein. Le beigne rouge, là, c'est plein de berbérine. Bon, évidemment, pour avoir des doses efficaces sur le microbiote, il faut quand même une sérieuse concentration. Bon, même à des doses plus petites, ça peut aider. Enfin, c'est un peu compliqué, la berbérine. Ses effets antimicrobiens demandent des doses plus importantes pour être vraiment spectaculaires que les effets métaboliques. Et donc, il faut parfois choisir, si on a des petites doses, on vise plus les effets métaboliques, mais alors on peut prendre en continu. Et puis, les effets antimicrobiens, c'est mieux d'avoir des doses plus fortes. Je prépare une vidéo là-dessus, j'expliquerai pourquoi. Des doses élevées, mais sur une durée courte. Moi, j'utilise toujours 5 jours par mois, où donc la toxicité est tout à fait... 5 jours, il n'y a rien qui peut devenir toxique en 5 jours. Et puis, on fait une pause le restant du mois. avec des doses élevées. Et là, on a des effets antimicrobiens très spectaculaires. C'est d'une complexité. Il y a de nombreux articles qui sortent toutes les mois sur la berbérine et on est loin d'avoir fait le tour de tout. Donc, ce serait s'avancer que de donner des mécanismes. Et en tout cas, c'est une. Alors, ça diminue aussi la perméabilité intestinale. La berbérine diminue la perméabilité intestinale. C'est un strike. Et donc, que ce soit sur des reins malades ou des foies malades, j'ai dit que j'en parlerai plus. Hein. Enfin, je dis plein de choses et puis évidemment, je ne m'y tiens jamais. La berbérine, c'est très intéressant. Alors, il y a des gens qui sont là en train de dire la berbérine, c'est toxique pour les reins, c'est toxique pour le foie. Mais non, allez voir quand même la littérature. Parce que la littérature sur la berbérine, elle est quand même surtout asiatique, voire du Moyen-Orient, voire d'Afrique. Et le monde occidental, universitaire occidental, il est inhibé parce qu'il y a énormément d'intérêts en jeu et il y a des conflits d'intérêts colossaux. Enfin, on a connu ça avec d'autres problèmes, notamment de virologie, si vous voyez ce que je veux dire.
Les conseils de prise de berbérine par le docteur Mouton, là, pour ceux qui veulent prendre soin de leur microbiote en lien avec leur rein, quel serait-il?
C'est quand même quelque chose à bien cerner. C'est peut-être pas bien de faire ça ici en deux secondes parce qu'il y a quand même des petits sous-cas, des petites précautions, etc.
Ça dépend de l'objectif.
Bon, si on veut creuser un peu le sujet, il faudrait plus de temps. Allez voir, j'ai 4, 5, 6 vidéos sur la berbérine sur ma chaîne YouTube. Et lisez aussi les commentaires en pas ceux qui parlent de Goliath ou d'Oxo, mon chat, que d'ailleurs, pieut à la cave. Mais il y a des commentaires très intéressants aussi avec, franchement, des effets très spectaculaires. Il vaut mieux ça parce que c'est quand même une molécule puissante. Donc, à ne pas trop improviser, il faut savoir de quoi on parle, il faut se renseigner. Et idéalement, c'est plutôt via les soignants qu'on peut faire agir. On a aussi des professionnels de la santé qui vous écoutent, non? Podcast.
Oui, bien sûr. Je me permets de poser une petite question.
Pour les patients.
Il y a la forte dose où c'est sous 5 jours plutôt un objectif de nettoyage d'intestin. Mais ma question, elle est plutôt sur le rôle de la berbérine sur la santé métabolique. C'est lié à son effet intestinal sur la paroi et sur le microbiote?
En partie, ça. C'est multifactoriel parce que la berbérine fait baisser le cholestérol, les triglycérides, la glycémie, l'hémoglobine glycosylée.
Prendre de la berbérine,
l'insuline. C'est la totale, c'est la
c'est
totale.
Hein?
Mais c'est quand même une majorité d'effets via le microbiote, mais pas que. Franchement, moi je la connais comme clinicien. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec la berbérine et j'ai trouvé tout seul. Bon allez, tant pis, je vais lâcher le morceau. Je voulais en réserver la primeur à ma vidéo, mais vous êtes si sympathique.
Régale-nous.
Oui. Et donc, 5 jours, forte dose, 3 grammes, dans le meilleur des cas, parfois
il l'a dit.
Parce que ça, 3 grammes par jour. Et pour avoir cette. Donc, ça, c'est un peu le but, mais. C'est pas toujours donné ça et les gens qui ont un très mauvais microbiote réagissent très fort à la berbérine. Pas la faute de la berbérine. La berbérine est très sûre, elle est pas toxique, elle est pas néphrotoxique, elle est pas hépatotoxique, elle est rien du tout toxique, elle est très bien tolérée. Tous les articles scientifiques sérieux, universités chinoises l'ont prouvé 1000 fois. C'est la réaction d'Alzheimer sur tout ce qui meurt sous l'effet de la berbérine, toutes ces proliférations qui sont décimées. Et là, on a une très forte un bénéfice énorme. Et il faut passer le cap. Alors, ce qui est super excitant, c'est quand on réagit mal au début et puis qu'on refait le cycle suivant un mois après que ça que ça passe mieux. Et puis les gens, moi, après le quatrième mois, ah, ici, c'est comme si je prenais rien, mais ça veut dire que le microbiote est amélioré, ça c'est certain. Et on peut le prouver par les tests. Bon, bref.
Oui, vous proposiez une augmentation de la charge progressive de la prise de berbérine, il me semble, dans vos vidéos.
On peut, hein, on peut, mais il faut pas partir pessimiste, il faut partir plein pot, tête baissée si les gens sont,
ah oui, sont cavaliers,
etc. Parce que il n'y a pas toujours, évidemment, cet effet-là. Il ne faut pas non plus que les gens se disent, tiens, je ne réagis pas, donc ça ne sert à rien, ça n'agit pas, etc. Mais le secret de cette forte dose qu'il faut oser recommander, c'est un peu en dehors des guidelines, mais je suis sauvé par le fait que c'est une durée très courte. Il n'y a rien qui arrive. De toute façon, j'ai infligé ça à des milliers de personnes, sans parler de mes collègues. Donc, on arrive à des dizaines de milliers. Bon, hein, la sécurité, à un moment donné, vient aussi du fait que les médecins chinois ont travaillé avec la berbérine depuis 5000 ans. Bon, je crois que s'il y avait une toxicité à découvrir sur la berbérine, on aurait peut-être pu en entendre parler éventuellement même dans l'ère précédente, puisqu'on est dans l'ère après Jésus-Christ, ben, 5000 ans, forcément, il n'était pas né. Donc, mais quand même, pour pousser ça à ces doses très élevées, je sais maintenant pourquoi ça fonctionne, mais ce n'est pas en le sachant que j'ai trouvé la dose. J'ai trouvé la dose par essai et erreur. Sur des centaines et des centaines de prescriptions, me basant sur la sécurité de la molécule qui est très grande et tous mes paramètres, parce que moi je teste avant, je teste après, donc je veux dire, c'est vraiment comme, quasiment comme si on faisait des études, les patients sont demandeurs d'un suivi, ils se mettent les moyens, donc je suis, tout est toujours très étayé chez moi par des prises de sang, et s'il y avait des problèmes, je le verrais. Et je suis arrivé à ces doses très fortes, et c'est bien 5 jours à dose très forte, et pas la moitié de la dose ou le tiers de la dose sur 15 jours. Pourquoi? Parce que ce sont ces doses-là qui, tatatam, c'est là le scoop, qui détruisent les biofilms. La berbérine est un destructeur de biofilms, mais uniquement à dose massive. Et le pire du pire, c'est là que je voulais garder la primeur pour ma bio, mais comme personne ne vous écoute, c'est pas grave, je ne perds rien. À petite dose, style 500 mg, voire 1 g par jour, qui sont plus des doses à visée métabolique, ça pourrait, je vais encore faire des recherches bibliographiques pour étayer, mais j'ai déjà quand même des assurances pour me permettre de le dire ici aujourd'hui, ça serait pas du tout efficace sur les biofilms, voire ça les favoriserait. Et donc, il faut choisir, est-ce qu'on a l'action sur le microbiote ou est-ce qu'on a l'action sur glycémie, cholestérol? C'est assez sensiblement hypocholestérolémiant, hein, la berbérine, 500 mg, 1 g par jour, on voit un effet sur le cholestérol, hein, qui est tout à fait pertinent. Et donc, on ne peut pas avoir les deux. Il faut choisir. On peut évidemment avoir des cycles où on travaille le microbiote et puis on se dit, oui, bon, ben maintenant on a remis le microbiote un peu en état, on va un peu lisser les paramètres métaboliques, tout en rappelant évidemment que les paramètres métaboliques, la meilleure manière de les lisser, ben, c'est évidemment en mangeant comme il faut. Hein. Bon, ça, je ne vais pas vous le faire dire.
Vincent, tu avais une question ?
Ouais, c'est passionnant. Bon, une petite remarque, c'est que moi, je commence mes coachings, du coup, hein, ouais, j'ai mon DU de micronutrition de Castronovo, il dit exactement pareil que toi sur la berbérine, hein, une action intestinale, une action métabolique. Donc les infos se recoupent et ouais, je sais pas, je vais te dire aussi que je suis surpris dans mes coachings de devenir rééducateur de sensations. Bon voilà, c'était
très important.
Sinon, les gens ont perdu la faim, l'énergie.
C'est du décoaching. Vous dites aux gens ce qu'ils doivent faire, mais non, vous dites aux gens de comprendre ce que leur organisme leur dit qu'ils doivent faire. Il y a un coaching bénéfique, c'est la deuxième version que j'ai citée, et un coaching maléfique, c'est une espèce d'assuétude des gens, et puis ils ont un jour où ça va pas, il faut, oh, ce matin je me suis levé, bon, j'avais un peu la tête qui tourne, hein, coach, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'ai pas bu assez? Ben, tu seras le premier à savoir si t'as bu assez ou pas assez, ton corps te le dit, mais faut-il
ça,
encore
apprendre à écouter, hein.
Les gens, ils n'écoutent plus du tout. Alors là, plus du tout.
Mais
c'est le premier problème qu'on a.
ils vont écouter, Georges, vous vous inquiétez pas.
Les gens sont déconnectés de leurs sensations. Oui. Ils sont tellement sur autre chose que même la sensation de fatigue, de soif, de faim, de tout, en fait. Hein. Voilà, et juste pour alors, une parenthèse, pardon.
Moi, j'aimerais
faire mes petits animaux familiers, là. Eux, pas déconnectés du tout. Hein. Super précis. Mon chien, bon, quand même dans sa 17e année. Hein,
expérience.
Un mauvais jour. Mais alors, il y a une logique, notamment au niveau de l'appétit. Il fait des promenades un peu plus musclées, un peu plus longues. Après, parfois, il est un peu fatigué. Le lendemain, il va manger plus. Inversement, il va manger moins. Mais on pourrait mettre ça dans une courbe, elle est absolument impeccable et c'est prévisible. La soif, pareil, s'il a fait plus chaud, il va boire plus, s'il a fait moins chaud, il va boire moins. C'est incroyablement précis. Et il a un hypothalamus, il est tout petit, 5 kilos, il a un hypothalamus qui est gros comme, je sais pas moi, une pointe de bique. Et ça fonctionne avec des tonnes de signaux, mais les gens, ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Si vous faites du coaching comme ça, vous êtes toxique.
Parce qu'ils sont peut-être obligés d'obéir. Mais genre, juste une question, avant qu'on finisse, peut-être pour les gens, justement, ou peut-être c'est trop tard et qui ont peut-être une insuffisance, pour donner des conseils pour conclure ce podcast. Sur l'alimentation, on avait parlé des oxalates avec Marion, on n'en a pas encore parlé, justement. Est-ce que pour toi, c'est un vrai enjeu? Il y a un vrai impact? Est-ce que tu pourrais aussi le redéfinir? Alors, parce que Marion avait quand même un discours très alarmiste et j'aimerais avoir quand même ton opinion à toi. Est-ce que peut-être quelque chose de plus nuancé sur ce sujet-là?
Mettre un peu de sagesse.
Marion avec les oxalates, Marion Kaplan avec les oxalates, c'est Vincent Reliquet avec l'iode. Bon, elle n'est pas médecin, lui est médecin, c'est exactement la même chose. On doit les remercier pour ce que en anglais le mot parfait c'est awareness, être. C'est quoi? Comment on va dire en français?
Il nous alarme. Mais
c'est plus Georges, c'est Jean-Claude là.
Pourquoi Jean-Claude? Mais en fait, Van Damme. Tu dis qu'en étant extrémiste, il nous alarme sur le sujet.
To be aware, ben oui, mais c'est lui qui a popularisé. Mais oui, mais enfin, awareness.
Conscient.
Non, c'est comment est-ce qu'on va dire en français? Être conscient. Conscientisé, conscientisation.
Ouais, conscientisé, ouais,
c'est bien. Conscientisation. Et c'est vrai que bon, ils ont tous les deux fait un travail de pionnier. Il faut reconnaître ça. Moi, je trouve, mais ce n'est jamais que mon avis, que tous les deux ils exagèrent dans leur truc. Mais c'est toujours une règle, ça. Ceux qui viennent avec quand même des idées nouvelles, ils vont toujours pousser ça dans un truc extrême. Peut-être au début, puis alors souvent, ils font un peu marche arrière. Eux, pas. Bon, enfin, je crois pas, parce que j'ai beau échanger avec Vincent, pour lui, il faut prendre des doses mammouthesques. Moi, je suis plus dans les doses moutonnesques, plus raisonnables, mais à cause de Vincent Reliquet, j'ai augmenté tous les jours. Je pense à lui, là, j'ai une petite statue, là, je jette des pétales de rose le matin au lever du soleil sur la statue, hein, soyons clairs. J'ai augmenté mes prescriptions d'iode et je veux bien admettre sans difficulté, j'ai pas mis longtemps pour changer ma façon de voir les choses, que les normes des laboratoires occidentaux pour l'iode sur une 24 heures sont trop basses. Je les double maintenant. Alors, je ne faisais pas ça. Je me tenais à nos normes. Mais je pense qu'au Japon, ils ont des normes plus hautes. Et donc, forcément, les Japonais sur l'iode, c'est les rois. Ils ont très peu de problèmes de sein, de prostate par rapport à nous. Donc, c'est clair que les Japonais ont raison s'ils donnent des normes d'iode sur une 24 heures deux fois comme les nôtres. Donc, moi, j'ai doublé mes normes sur une 24 heures. Le problème, c'est que j'ai des patients qui me disent « Oula, mais vous, docteur Mouton, vous me rendez de l'iode, je suis déjà trop haut. » Je dis « Oui, mais je n'ai plus les mêmes normes que quand on s'est vu il y a un an. » Donc, pour ça, mais voilà, je remercie Vincent pour ça. Mais maintenant, je ne vais pas non plus nécessairement les suivre. Et pour revenir aux oxalates et Marion, il faut un peu… se calmer, c'est-à-dire qu'il y a des oxalates dans tous les végétaux. Si on veut vraiment s'obséder sur les oxalates, il faut devenir carnivore. Et ça, je suis loin de croire que ça convient à tout le monde. Alors, certains qui semblent s'en sortir pas mal, bon, c'est quand même très, très interpellant. Moi, j'ai toujours envie de mettre des carnivores et des véganes dans le Colisée, comme du temps des Romains, mais il n'y a pas les fauves et les, et les chrétiens, il y a les véganes et les carnivores. Ça,
les deux opposés, les deux extrêmes.
On règle les deux problèmes parce que je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Je ne sais pas comment ils vont persuader les uns les autres, puisqu'il y en a qui ne mangent que ce que les autres ne mangent pas, et réciproquement. Donc, c'est un peu exagéré. Je crois que ce qui se passe avec les oxalates, et je fais des vidéos là-dessus, parce que moi-même, j'ai des problèmes d'oxalates, donc ça, je m'en loue dans mes vidéos, on peut aller les écouter si on veut, mais c'est pas tout le monde. J'ai eu ce matin, je vous garantis, sur ma chaîne YouTube, quelqu'un qui me dit, moi, je mange des quantités, elle m'a cité, je crois que c'est 300 grammes d'épinards tous les jours, jamais eu de problème d'oxalate. Donc, les oxalates nous ramènent à une question qu'Alexandre a posée il y a quelques jours dans ce long échange, c'est le lien entre les intestins et les reins, mais il concerne les oxalates aussi, et peut-être plus encore que n'importe quoi, parce que si on a de bons intestins, une muqueuse intestinale qui n'est pas anormalement perméable, un microbiote équilibré, idéalement le genre oxalobactère qui n'a pas été détruit par des antibiotiques ou je ne sais quel errement, soit les oxalates sont utilisés par le microbiote comme carburant, en partie en tout cas, soit ils ne sont pas absorbés, un mélange des deux, et donc les gens qui ont de très bons intestins, mais bon, moi, c'est pas mon cas, c'est pas pour rien que je me suis intéressé, quand même, il y a 25 ans, j'ai quand même pondu le truc là qui fait 512 pages sur les intestins, il y a 25 ans, quand personne n'en parlait, hein, de me reconnaître ce qui est. En général, quand il y a un médecin qui parle d'un sujet, c'est souvent qu'il a un peu des soucis, hein, mais Marion a des soucis avec ses oxalates, je pense, si je ne me trompe. Donc moi, je parlais de problèmes d'intestin. Celui qui a des bons intestins, au contraire, sa consommation d'oxalates, on s'en fout. Bon, maintenant, est-ce qu'on a des bons intestins? On peut quand même être un peu prudent. Je suis d'accord avec Marion pour dire les épinards, c'est pas comestible. Ce n'est pas comestible. On peut pas manger quelque chose qui a 100 fois plus d'oxalates que dans son équivalent, que ce soit de la roquette ou de la mâche. Je me suis trompé dans une vidéo où j'ai dit que la mâche contenait beaucoup d'oxalates, c'est pas vrai du tout. Donc un facteur 100. Je dis pas que si on a un invité qui a des épinards dans l'assiette, on va se les manger, mais je veux dire, on va pas aller acheter des épinards. Moi, je ne viendrai jamais plus à l'idée d'acheter des épinards. Enfin, surtout moi, mais je ne conseille pas d'acheter des épinards. Mais ceci dit, il y a des oxalates dans tout, il faut un peu intégrer ça, c'est quand même intéressant parfois.
C'est une info là, hein, quand même, Georges qui interdit.
Moi, oui, je dis aux gens, maintenant je dis non, arrêtez les épinards. Mais oui, c'est 100 fois. Il y a des oxalates dans tout ce qui est végétal. Donc, on ne va pas tout interdire. Mais ça fait sens d'interdire ce qui est beaucoup plus haut dans le reste. Parce qu'on ne on peut pas trop interdire. Et c'est un peu, à mon avis, l'erreur, l'exagération du message. Oh, attention, les oxalates, c'est très dangereux. Oui, mais alors, il y en a dans tout. Alors, les gens, ça ne va pas. Il faut un peu... Puis alors, il faut sortir du tas les gens qui ont de vrais problèmes d'oxalate, c'est-à-dire ceux qui ont... Je crois qu'il y a des gens qui ont une insuffisance rénale qui est liée... Alors ça, c'est hypothétique, j'ai pas de preuve. Je crois pas que ce soit publié. Ou alors, si quelqu'un voit des publications, merci de les partager avec moi. Pas de me les partager. Hein. Mais il y a des gens qui ont une insuffisance rénale progressive, probablement avec des reins remplis de micro-cristaux d'oxalate qu'on ne voit pas à la radio, plutôt que des grosses pierres, des gros calculs. Donc, il est évident que les cristaux d'oxalate de calcium participent à l'insuffisance rénale, mais ce sera chez les gens qui ont un mauvais écosystème intestinal. Et c'est pour ça que c'est tellement important de corriger l'écosystème intestinal.
Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est les oxalates pour les auditeurs et donner les signes d'intoxication aux oxalates? Comment je peux repérer que j'ai un problème avec des oxalates?
Mais quand on a eu des calculs, on a eu des calculs rénaux. C'est pas que les oxalates de calcium non, comme calculs rénaux. Il y en a d'autres. Hein, il y a les urates. Il y a toute une gamme de cristaux. D'ailleurs, l'idéal, c'est évidemment, si on récupère un calcul, c'est de l'analyser pour voir si c'est des oxalates ou autre chose. Mais C'est souvent les oxalates. Alors, un truc typique, c'est une vessie irritable, hein, qui surréagit. C'est des cristaux d'oxalate qui sont allés se mettre là. On peut avoir ça. Moi, j'ai des cristaux d'oxalate sur le, certainement sur le cristallin, parce que je l'ai vu diffracter depuis une cure de persil. Pas des jus, hein. Persil, comme ça, comme assaisonnement. Il y a éventuellement les acouphènes, il y a des oxalates dans l'oreille interne, c'est certainement aussi un rôle important. Puis tout ce qui est calcification, 36 sortes de calcification, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas des cristaux d'oxalate ? Ce ne sera probablement pas toujours le cas, mais ce sera aussi le cas chez certains. Tendinite, arthralgie, voilà, et là il y a plein de cas. Il suffit d'aller écouter mes propres vidéos là-dessus. Bon, moi j'ai une gonalgie à droite, une tendinopathie, une douleur au tendon d'Achille à gauche. J'ai travaillé mes oxalates, ça a disparu. Alors, c'est même pas une preuve, mais bon, vu le reste du contexte, c'est évidemment très suggestif. Donc, ça va dans tout un tas de directions, mais l'inverse n'est pas vrai. Toute calcification, toute tendinite, tous ces problèmes-là peuvent avoir d'autres causes.
Mais évidemment, c'est multifactoriel.
Deux, trois trucs qui peuvent tous être connectés aux oxalates, alors la probabilité augmente.
D'ailleurs, on peut les tester au niveau sanguin. Est-ce qu'on peut faire une analyse?
Je les teste dans les urines de 24 heures, hein, oxalate sur urine de 24 heures. Ben oui, c'est la seule test. C'est d'ailleurs un test qui existe au départ pour des raisons de médecine du travail, des intoxications professionnelles, où d'ailleurs le seuil est un peu plus bas que le seuil en médecine de ville, on va dire. Mais c'est pas un très bon test parce que bon, c'est dans l'urine, mais les cristaux, ils peuvent s'accumuler comme des dingues dans des endroits et pas être dans l'urine. Ou alors on peut se dire, je travaille cette affaire-là et je pense que je suis en train de diminuer cette intoxication aux cristaux d'oxalate. Et puis on va voir que le taux dans l'urine augmente, mais c'est peut-être que les cristaux sont en train de s'évacuer. Donc il faudrait une clairance des oxalates. Il n'y a pas. Hein, enfin, je dis ça parce qu'on a parlé de clairance, mais il faudrait une sonde à oxalate. Et, je sais pas, on n'a pas la technologie. Donc, mais c'est quand même intéressant parce que si on a des valeurs d'oxalate dans l'urine fort basses et qu'on mange beaucoup d'oxalate, on pourrait quand même se dire, bon, je ne dois pas trop les absorber, mes intestins me protègent de ça. Et inversement, hein, voir des taux urinaires fort élevés, ben, il faudrait peut-être se dire, je vais quand même un peu me calmer avec les graines de sésame, les graines de chia, le lait d'amande, les betteraves.
Le chocolat noir.
Le persil. Ben, le chocolat noir, oui, mais faut voir le grammage. Bon, du lait d'amande, il y a des gens qui s'enfilent un litre de lait d'amande comme rien. Bon, le chocolat noir, si tu manges une quantité raisonnable, c'est pas énorme. Il faut voir par rapport au nombre de grammes aussi. C'est pas binaire. C'est pas. Il y a la concentration dans un aliment et de combien de cet aliment on consomme.
Hein. Il faut la charge.
Ouais, de faire là attention à ces végétaux.
Le chocolat noir et à recommander le chocolat blanc, comme Marion fait, ben non, qu'on arrête. Là, ça devient un peu. Mais bon. Elle sait bien, bon, mais bon, je sais pas, enlever, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les pépins des framboises, c'est ça? Parce qu'il y a plus d'oxalate dans les pépins que
ouais,
dans le.
C'est vrai qu'elle me semblait qu'elle avait parlé de ça, ouais.
Après, même elle fait appel au bon sens, hein, tu sais. Même si elle est un peu extrême dans ce qu'elle dit, elle fait quand même appel au bon sens à se dire, bon, voilà, les épinards, on sait que c'est 100 fois plus concentré en oxalate, mais une fois de temps en temps, vous ne mettez pas non plus en danger.
Oui, mais je crois qu'elle a un peu assoupli son discours qui, quand c'est venu au départ, c'était vraiment le. Attention, le bouquin, il est là, hein, c'est le truc toxique superfood, ça. Moi, je l'ai en anglais.
Ce qu'elle dénonçait beaucoup, ce qu'elle dénonçait, Georges.
Quand même, hein,
ce qu'elle dénonçait.
Elle appelait ça oxalite suraiguë.
Ouais. Ce qu'elle dénonçait, Georges, c'était vraiment les gens qui buvaient des jus d'épinards à longueur de journée en pensant se faire du bien. C'était vraiment ça. Elle disait que c'était extrême et que c'était vraiment hyper nocif.
Mais je crois quand elle est venue chez vous, elle avait déjà été un peu échaudée parce que quand elle est venue avec son message initial, c'était la terreur. C'est la terreur des oxalates. Vous savez quelle est la nouvelle terreur? Vous en êtes rendu compte ici. Je vous parle d'actu. On est dans l'actu, là.
La nouvelle terreur.
La terreur, c'est franco-français. On n'entend pas.
Le fructose.
Au Luxembourg. Ça, il y a longtemps. Non, pire que ça, c'est le drame sanitaire, le nouveau.
Le cadmium.
Voilà.
Allez.
Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Georges?
Putaclic. Putaclic.
Putaclic, hein.
Et t'as, ouais. Et
ça clique, commençant. Vos auditeurs, ils savent ce que c'est, putaclic.
Mais bien sûr.
Ouais, oui,
ben oui, c'est ce que Georges. Alors bon, ils savent, non?
Tout le monde le sait.
On sait pas ce que vous faites. On n'est pas là pour ça.
Mais nous, des fois, on a des titres un peu.
Ah,
voilà,
on est obligé. On est obligé sur YouTube pour essayer de
les sonner.
Il faut des vues.
D'ailleurs, mettez-nous les 5 étoiles, hein. On sait que vous n'avez pas eu le temps de le faire jusqu'à présent.
Et le cadmium, alors, c'est quoi votre opinion? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'il faut faire attention?
On en fait trop. Bon, moi, depuis qu'on en parle, mais ça fait un an ou deux quand même, je le teste dans le sang, je ne vois pas d'excès. Le problème, c'est que ça s'accumule peut-être plus dans les reins. Il y a peut-être un sujet pour les reins, etc. C'est du long shot. Hein. Il faudrait vraiment voir si... tout ce qui, les aliments qui viennent du Maroc, où il y a plus de cadmium dans les engrais, je ne sais pas trop quoi, etc. Je crois que c'est encore un peu, c'est les gens n'osent plus toucher aux poissons à cause des microplastiques, ils ne veulent plus toucher à aucune, c'est pas encore un truc carnivore, ça, il y a du cadmium dans tout ce qui pousse dans le sol, donc il faut plus manger que du truc animal. Mais les animaux eux-mêmes ont bouffé le truc où il y a le cadmium, donc ça n'avance pas. C'est exagéré, mais bon...
À surveiller.
À surveiller, à approfondir. Faudrait des tests plus graves. Dans le sang, ça ne donne pas. Moi, j'ai testé. Il n'y a pas d'intoxication. De nouveau, c'est des trucs professionnels. Et peut-être que les paramètres ne sont pas justes. Peut-être que... les tests sont conçus pour détecter des intoxications professionnelles au cadmium. Parce qu'il y a toujours ce problème de tout ce qui est d'origine alimentaire, on a parlé des oxalates, et de ce qui est d'origine de contamination professionnelle. Là, ça a été étudié. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau collègue qui nous rejoint, qui est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a... fait sa médecine générale, déçu un peu de ce que ça pouvait donner pratiquement en parlant sur le terrain, et s'est dit, bon, moi, ça ne va pas le faire, je vais faire la médecine du travail. Je dis, la médecine du travail, peut-être pas aussi excitant qu'on pourrait l'imaginer. D'ici, c'est une médecine officielle, parce que le problème de la médecine fonctionnelle n'est pas officielle, mais c'est une médecine préventive. Et là, on étudie toutes ces toxicités, aluminium, enfin bon, il y en a des tonnes. Et donc, c'est intéressant, mais on manque d'éléments. Et le fait que tous les influenceurs, je ne veux même pas les appeler des youtubeurs, c'est vraiment des influenceurs qui sont à la recherche de vues. En une semaine, ils ont tous sorti leurs vidéos sur le cadmium. Eh ben merde. Moi, je dis,
merci,
team de cadmium. Docteur Mouton, alors ça, vous faites un titre. Là, ça va être putaclic à mort. Docteur Mouton, on dit, vive le cadmium. Pas que je dis vive le cadmium, mais ras-le-bol, c'est du fear-mongering. C'est de commerce de la peur.
On en fait trop. Genre, je pense qu'on arrive quand même sur la fin de l'épisode. On a été assez...
Un truc qui manque.
Ah, voilà, théorie. C'est la question que j'allais poser.
Ah oui, et c'est surtout sur ce que tu as évoqué, comme quoi l'insuffisance rénale, quand elle commence à apparaître, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas des cas avancés, où c'est, bon, il faut évidemment le néphrologue d'abord, mais s'il y a un petit, vérifie la thyroïde. Si la thyroïde est trop basse, il y a un parallèle impressionnant avec une petite baisse de la fonction rénale. Et comment est-ce qu'on évalue la fonction rénale? Pierre, on évalue comment la fonction rénale?
Avec la clairance de la créatinémie.
Voilà.
Eh bien, super.
Sur les urines de 24 heures, bien entendu, sans recueillir les urines du matin, puisque ce serait la plus grave erreur.
Les premiers matins,
en se lavant les mains.
Bon, allez, il faut réécouter là.
Ben, je pense qu'on a été quand même très complet sur l'épisode. Cette thyroïde aussi à prendre en considération. Je pense que Vincent et peut-être Pierre auront une dernière question pour compléter cet épisode.
Hein, on se connecte et ben, la thyroïde, ça va toujours rester une pierre angulaire de toute prise en charge.
Méga dose d'iode alors.
C'est quoi ton mot de la fin, Georges? Tu sais, pour que vraiment les gens comprennent, là on a parlé du rein. Qu'est-ce que tu dirais pour résumer un petit peu
Le take-home message.
C'est vraiment, toi qui aimes les anglicismes. Comment tu peux les impacter? Comment pour du rein?
Pour boucler la boucle, je dirais que finalement, ce qui est le plus dangereux pour la fonction rénale, c'est le diabète.
Et ouais, on n'a pas parlé encore, hein?
La première cause, je crois, de dialyse rénale, donc où il faut des machines pour remplacer les reins qui sont hors jeu, ça c'est quand même terrible, hein, comme qualité de vie, ça fonctionne, mais enfin, c'est terrifiant, ben, c'est le diabète. Vous n'avez pas vu venir, hein, celle-là.
Ouais, mais c'est
là, comme un missile qui... Enfin, on va pas parler de missile.
Non.
C'est fascinant de finir par le mot de conclusion sans l'avoir abordé dans tout un épisode, quoi.
Vous avez mal préparé le truc.
On t'a écouté.
On t'a écouté, Georges. Et donc, tes recommandations assez classiques, faire attention à la charge glycémique.
On suit l'hémoglobine glyquée et l'indice HOMA. Voilà ce qu'il faut faire et on vérifie tout ça.
HbA1c, très important. Donc,
et
dans
arrêtez de vous bourrer de sucre le matin, là, les coquins, on le sait.
Dans l'indice HOMA, ce qui compte, c'est la... Dans l'indice HOMA, il y a deux paramètres. Il y a la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. La glycémie à jeun n'est pas un très bon paramètre. Oui, elle va être trop haute chez les diabétiques, mais bon, ça, de nouveau, on arrive beaucoup trop tard. Mais la glycémie à jeun, ça augmente avec le cortisol. Donc, les gens qui s'éveillent, qui sont stressés, ils ont une glycémie à jeun plus haute que ce qui reflète leur alimentation et leur prise de sucre et de glucides, etc. Donc, il faut retenir l'insuline à jeun. Moi, j'aime pas l'indice HOMA parce que l'indice HOMA, on mélange deux paramètres dont on apprendrait beaucoup plus de chacun des paramètres séparés. Parce qu'on regarderait la glycémie à jeun, se dire, tiens, elle est haute, les autres paramètres glucidiques sont bons, c'est du stress. Ou on aurait la glycémie à jeun qui est normale, mais l'insuline qui est un peu haute. Alors là, on a besoin de l'HbA1c pour voir un peu jusqu'où il y a une dégradation. Puis bien entendu, l'insuline à jeun, c'est ce qui va augmenter quand on va vers la résistance à l'insuline. Tous ces tests, on a parlé tout à l'heure avec leur débit de filtration glomérulaire, je crois que c'est DFG, l'acronyme si je ne les mélange pas trop. On fait des médecins, des ânes battés, on leur remet, il y a une tendance, hein, on leur remet des indices. Ils sont même plus malins assez ou ils n'ont pas le temps de regarder les paramètres, on leur met un indice où il y a 2-3 paramètres mélangés. Oui, mais les gars, vous comprendrez beaucoup plus de choses à regarder chacun des deux paramètres de l'indice HOMA. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder un indice qui va éventuellement noyer une glycémie à jeun due au stress qui est visible et qui contraste avec le reste, avec une insuline qui est bonne parce que la personne est sportive et là une insuline qui est même fort basse parce que c'est peut-être le bon moment de dire que des insulines trop basses chez des gens minces et sportifs, c'est normal. Il y a plein de médecins qui croient que c'est un problème de pancréas. Une insuline basse, voire sous les normes du labo, si on est fit, bien entraîné, qu'il n'y a pas, il n'y a pas anguille sous roche, les gens sont, on voit bien qu'ils sont, leur aspect physique est tout à fait satisfaisant. Les médecins disent oula, il faut arrêter le sucre, mais c'est absolument complètement délirant. Donc, on les abrutit avec de noyer des paramètres fondamentaux, la glycémie à jeun, l'insuline à jeun, c'est deux paramètres fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on en fait qu'un? Et alors le pire, c'est qu'on a dit et redit et tridit, y compris à des médecins. Je pense à un médecin nutritionniste français très connu qui est tombé dans le piège. L'HbA1c, c'est désuet. Je ne vais pas le citer parce que je l'aime bien, mais j'ai donné des conférences pour lui il y a longtemps. il fait plein de livres et tout, il est bon, mais non, là, je mets un C, c'est désuet, maintenant, on a l'indice Omar. Mais quelle catastrophe! On est vraiment en train de créer une génération de jeunes médecins débiles, parce que on veut qu'ils aillent de plus en plus vite et qu'ils comprennent de moins en moins de choses. Ils suivent du coaching pharmaceutique.
Excuse-moi, Georges, mais je vois pas le lien entre la santé métabolique et la santé de mes reins. Je suis désolé. En plus, il faut que j'aille travailler, mais je pose encore une question. Mais
ben, écoute, c'est simple. C'est le diabète, les dégâts du diabète. Il y a deux types de dégâts. Il y a des dégâts qui se font au niveau des macro-vaisseaux. Et donc là, tu vas vers l'athérosclérose, les maladies cardiovasculaires qui sont nourries abondamment par le diabète, mais ça peut altérer. Alors chez certains, c'est plus d'un côté que de l'autre, voire les deux en même temps, mais c'est aussi une maladie des micro-vaisseaux, donc polyneuropathie, on perd la sensibilité au niveau des pieds ou des orteils. Ça, c'est une complication typique du diabète. On perd la vue parce que la rétine, les micro-vaisseaux de la rétine commencent à dégénérer. Tout ça, c'est des micro-vaisseaux. Et donc...
une glication des vaisseaux intrarénaux.
C'est pas une glication au sens physique du terme, mais c'est une altération de la micro-circulation rénale. Et évidemment, donc la fonction d'épuration qui se fait dans les glomérules, etc., mais c'est tout une histoire de micro-vaisseaux, et ça, c'est pouf. Donc, le diabète, c'est une maladie des vaisseaux, les grands vaisseaux et les petits vaisseaux, et les complications... Alors, évidemment, il y a aussi la gangrène des extrémités, hein, parce que la circulation, là, c'est peut-être aussi les macro-vaisseaux, ou les deux. Mais j'aimais bien terminer par ça, parce que c'est le fléau numéro un, et c'est pour ça que moi, la chrononutrition avec le goûter sucré à 16 heures, mais ça... Mais là j'ai immédiatement besoin de mon Baxter de Valium.
Voilà. La petite attention, coupe. Là, c'est un peu cétogène, là.
J'ai besoin de cétogène, là. On me dit qu'il faut un goûter sucré à 16 heures pour bien dormir. Sinon, on ne dort pas. Bon, ben, ce n'est pas avéré et les faits ne confirment pas. Parce que il faut se rendre compte que le fléau des fléaux, on a parlé de plein de trucs aujourd'hui, c'est quand même le prédiabète, la résistance à l'insuline et in fine le diabète. C'est le truc le plus courant et qui donne toutes les complications des autres, y compris ça va vers le cancer, ça va vers évidemment la neurodégénérescence. Hein. Moi, je suis très prudent avec les ApoE4 pour le cholestérol, parce que je pense que c'est logique et qu'on a quand même énormément de preuves scientifiques de ça. Mais évidemment, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il faut bien entendu que l'hémoglobine glycosylée soit le plus bas possible. Plus l'hémoglobine glycosylée est haute, plus on perd la mémoire.
Donc, on va recevoir d'ailleurs le docteur Dufournier, on va parler cétogène. Je sais que vous n'aimez pas trop ces termes-là, mais on n'a jamais fait d'épisode dessus, donc ça sera l'occasion d'avoir aussi sa vision. Et peut-être aussi, parfois, c'est bien de voir parfois les extrêmes, comme on dit, pour alarmer. Oui, donc ça peut être intéressant.
Pour deux sujets, on pourrait probablement aller dans ce sens-là pour le sujet du cétogène. Moi, le cétogène, je mets des patients sous diète cétogène. Parce qu'il y a des bonnes raisons pour le faire. Je ne suis pas du tout contre la diète cétogène. Dans mon livre sur les génotypes,
on a fini, Vincent.
Il y a la diète cétogène est proposée, présentée pour certains. Mais ce qui m'insupporte totalement, c'est de dire que la totalité des humains doit manger cétogène. Parce que ça tient pas la route
d'une minute.
Et de dire que tous les humains avant, que les athlètes olympiques à Athènes, il y a 2000 ans, étaient tous en cétose ou en régime cétogène. C'est du mensonge. Et que tous nos ancêtres en
Afrique. D'où le livre « Je mange selon mes génotypes ».
Voilà.
On mettra en description, bien sûr.
Globalement, il faut manger low carb. Il faut diminuer notre apport glucidique.
Généralement, oui. Mais par rapport à ce qui se fait maintenant, oui. Mais c'est parce qu'on a exagéré dans l'autre sens.
Bien sûr.
Et de là à faire manger tous les humains en cétogène, mais il y en a certains à qui ça convient pas.
Georges, Un grand merci. On s'est régalé. Vincent doit aller travailler. Pierre aussi. Moi aussi. Oui. Toi aussi, j'imagine.
Enfin, travailler donc, quand même.
Tout, ouais, tout le monde va travailler.
Je te dis la vérité. Okay. Je préfère rester avec vous.
Mais oui.
En fait, on peut partir sur notre épisode.
Si vous voulez qu'on reste pendant des heures, mettez-nous des commentaires, des likes. On fera des podcasts de 5 heures. Ouais, ça a assez duré, je pense. Si vous êtes encore là, mettez un petit j'aime, un commentaire. Merci pour tout, Georges. Et on avait proposé de faire un épisode, peut-être un jour sur le gluten. Si ça vous intéresse, vous nous dites en commentaire. Et on verra si ou sur le sucre aussi. Excellente journée à tous. Merci d'avoir écouté. Et merci, Georges.
Goliath, trop fort. 2h30 avec Georges.
Trop fort, Georges. Trop fort, Goliath. Merci.
Allez, ciao tout le monde.
Salut.